Allô les amis. Mais c'est quoi ce cadrage? C'est quoi ce cadrage, monsieur Étienne? Ah. Hop. Voilà. Est-ce que vous allez bien? C'est un lundi, je sais, certains sortent de week-end, certains sortent de vacances, certains sortent de week-end et de vacances, certains sortent du travail parce qu'ils ont travaillé ce week-end. Quoi qu'il advienne, quelle que soit votre situation, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que ce début de semaine s'inscrit sous les meilleurs auspices pour vous. Bravo pour le top 1, Léov. Je n'ai jamais fait de top 1 en rien, moi. Merci, Léov. J'ai fait un top 1 sur un truc, moi, récemment. Ah si, attends, si. Il y a eu du top 1 sur Battlefield en équipe grâce à une équipe de fous. Et ok, oui. Oui, enfin, quand on était avec Choachin et tout ça, quoi. Ouais, sur BF. Ah oui, merci Dilu Spam, tout va bien, tu sais. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a de la bonne humeur dans le chat, ça fait plaisir. Et les chômeurs alors me disent, c'est bien. J'ai dit, quelle que soit votre situation, les amis. Donc, elles sont multiples. Anis, merci. 77 Tsubasa, merci. Aizen444, merci. Diesel, merci. C'est les subs du lundi, ça. Caroxys, merci, 33 mois. Diesel, ça fait 39. Captain, oui, 51 mois. Qui dit mieux, c'est fou, ça. Merci, Kenewi. Merci, Framboise, qui a sub hier soir, je crois. Quand revenez-vous sur les ondes radio, j'ai pas de projet. Télé, toujours un peu de questions pour un champion le week-end. Puis peut-être que j'ai des petits projets en télé qui pourraient arriver, on sait pas. On sait pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, Valstum75 vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup. Merci mon ami. Merci Girabellini également. Tu es légèrement décentré à droite ici. Ouais, c'est exprès. Parce que dans un instant va venir ça. Le sommaire. Haha. Regarde. Et c'est marrant parce que quelqu'un vient d'écrire Gilou, t'en penses quoi de Macron? Premier sujet ce soir. Ce soir, putain. Je stream le matin, je stream le soir, je sais jamais quelle heure il est. Ce matin, c'est quel héritage pour Macron? Tac. C'est pour ça que je suis décentré, tu vois. T'as le sommaire à gauche. Ça va, Olinox? Merci, Mirette. Merci, Relato. Vous êtes incroyable. Merci encore, Valtoum75. Salut. Ouh, chic Nad. Hello, c'est parti pour 15 jours de vacances. Je vais pouvoir suivre tes streams matinaux. N'hésite pas à dormir aussi, hein. Samuel, te souviens-tu de Vincent, l'actuel champion de Tout le monde veut prendre sa place, qui a remporté la cagnotte de questions pour le champion? Alors, je pense à un Vincent avec des lunettes très sympa, ouais. Je sais pas si c'est lui. C'est ce Vincent-là? Je crois qu'il est enseignant, je crois qu'il est très fort, très gentil. Non, Twitch, il arrive le sommaire. Les sujets du jour. Ah, calmez-vous, attendez, on se dit bonjour. Attendez. Hey, on n'est pas sur une chaîne d'info, on continue, hein. On a le temps. C'est lui? Ouais, je l'aime bien. Merci Didu Spam, merci Anonyme31, merci Défécateur officiel. C'est fou, c'est le plus de sub du matin. Gilou, tu te mouilles pas, quoi comme les autres? Mais on n'a parlé de rien encore. Le fou du bus. Il y a Gilou, dans le chat TikTok, il vient d'écrire, tu te mouilles pas, quoi comme les autres. Mais on n'a parlé de rien encore. Mais il est fou, lui. Merci Toeli420, mais il est fada, lui. Mais on n'a parlé de rien encore. Mais je me mouille pas sur quoi? Mais, comme dit Léov, sacré Gilou! Ouais, professeur d'histoire géo, c'est ça, Vincent, très gentil, ouais. Incroyable. C'est drôle, ça. Ça, c'est marrant, sur TikTok, ils sont très impatients. Les sujets! Non! Je vais vous apprendre. Sur Twitch, on est chill. On se parle. On se dit bonjour. On se claque des bises, on se fait des checks, tu vois, tranquillement, on prend des nouvelles les uns des autres. Si tu veux des infos, tous les quarts d'heure, tu vas sur CNews ou BFM ou LC ou France Info. Tranquille. Ouais, on va parler du sous dans un carré, ouais. Merci, Miss Choupi. Ah, c'était bien, l'Axar, la PGW, c'était cool. Merci. Attends, Toi, Willy, t'as... Toi, vient de mettre 5 abonnements à la commu. Enfin, ça fait plaisir en vrai. Merci, Tidu Spam. C'est incroyable. Mais c'est quoi l'histoire ce matin? Il y a Chiquenade qui vient d'offrir non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, non pas 6, non pas 7, non pas 8, non pas 9, mais 10 abonnements à la communauté. Il pleut ou quoi? Il pleut des subs? C'est Noël? Incroyable. Tu joues à quoi en ce moment? Bon, un peu de tout, Battlefield, un peu de Valo comme d'habitude. Hier soir dans Samplay, vous avez le replay sur Twitch et YouTube cet après-midi. On a découvert un nouveau jeu, enfin un nouveau jeu 2025, il n'est pas si vieux, qui est sorti en mars, qui est un des jeux préférés de notre invité DFG qui s'appelle Blue Prince. Et le jeu est vraiment fou, quoi. Mais il y a un monde où, après ce live, je lance du Valo cet après-midi. Salut Vivicréation, embrasse ton fils. Il y a un monde où je lance un stream tout à l'heure, là. Genre dans la foulée. J'ai une envie de solo queue sur Valo, sur mon ancien compte, tu vois, pour rigoler, pour me retaper des... Parce que j'ai des mates trop gentils sur mon compte Silver, là. Ma petite team, là. Et j'ai envie d'aller me frotter à des fous, quoi. Tu vois, juste pour rire. Et juste pour me rappeler à quel point on est bien sur mon autre compte. Tu vois, ça peut être drôle, non? Ouais, le sample d'hier était sympa, c'était cool. C'est un beau jeu. T'en as pensé quoi de la PJW? Ton expérience? Rien, j'en pense rien, je suis pas vraiment allé, je suis allé juste pour animer le jeu avec Big Flo, avec Mastu, avec Avamind et Étoile. Donc j'y suis allé littéralement 2 heures. J'ai aucun avis sur la PJW, je suis vraiment allé faire que ça, quoi. La semaine était chargée, quoi. Merci Neo Vinsmok, tu régales. Merci Zira Bellini, merci Franksy, merci Bibi. Je vous lis, hein. Avec plaisir, il va être journaliste plus tard, journaliste sportif, j'espère qu'il va y arriver. C'est un très beau métier, c'est un métier qui est un peu... Il est difficile de percer au début, comme dans plein de métiers d'ailleurs. Il n'est pas tout seul ce métier. Mais quand on est vraiment motivé, qu'on a vraiment envie de faire ce métier, il y a de belles histoires qui peuvent s'écrire. Tu nous as mis le... il y a un délai? Ah putain, je vous ai mis un délai de 15 secondes sur Twitch. Ah, c'est le délai Valo, ça. Ah merde. Je crois que je peux pas l'enlever en live, désolé. Ah, bon, TikTok, vous avez de la chance, vous avez pas de délai. Sur Twitch, ils ont un 15 secondes de... Non, ils ont un 5 secondes de délai. Oh, c'est un petit délai. C'est ce qu'on met sur Valo pour pas se faire stream hacker. Faut que tu recommences le live? Ah non, on va rien recommencer du tout. Ah non. Il est comment IRL Jean-Pierre Chalençon? J'en ai aucune idée, je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai jamais vu en vrai. Salut Twitch à Oscar. On va parler du handicap d'ailleurs dans ce live. Je vais aller voir mes messages. Je suis toujours un petit peu en retard. Tu vois, une matinée Étienne, c'est 3 heures à peu près. Ouais, je regarde les commentaires sur les deux chats. Judas le chat. Une matinée, c'est 3 heures à peu près. 3 heures, 3 heures et demie. Et en général, en 3 heures, 3 heures et demie, je reçois 5-6 mails urgents qu'il faut que je traite. Sur des événements qui arrivent, des streams qui arrivent, des trucs à préparer, des réponses diverses et variées. Voilà, j'ai ça à peu près. Donc, comme vous ne me voyez pas en live, je suis sur mon ordinateur à répondre à plein de mails, quoi. Et donc, je suis toujours un petit peu en retard sur plein de choses. Voilà. Et après, je traite ça pendant une heure ou deux. Après, je fais des trucs pendant 3-4 heures, je sais pas. Tu vois, et hop, je rallume mon ordinateur et rebelote, c'est reparti, quoi. Donc, ouais, je suis pas très réactif du coup. Salut Sylvie. Bravo Vivi Création, c'est beau ce que tu racontes. Merci la Mandalorienne, merci encore Neo Vinsmoke. T'as pas un assistant pour s'occuper de la paperasse? Non, c'est moi qui fais tout. Je fais tout. C'est moi qui allume les caméras. C'est moi qui allume le son. C'est moi qui gère le soft. C'est moi qui imagine les concepts. C'est moi qui envoie les mails pour inviter les gens. Voilà. Alors j'ai des gens qui m'aident, qui me donnent des coups de main, tu vois, pour des trucs comme Joe par exemple, pour gérer aussi la chaîne YouTube, Mathieu, la chaîne TikTok, Lucie, les visuels, Léa, tu vois. Il y a plein de gens formidables, mais c'est encore très administratif, quoi. Mais progressivement, on va se faire aider. Samuel, tu as vu les news disant que tu étais élu président d'office. J'ai vu cela sur un post Facebook. Du coup, faut aller à l'Élysée ce matin. on en rit, mais c'est le projet. Hein. On en rit, mais c'est le projet, quoi. Bon, c'est un régal de vous lire en vrai. Hein. Et vous avez même démarré Merci la Mandalorienne. Vous êtes tellement chaud ce matin que vous avez démarré un train de hype. C'est quoi le projet 2026? Non, c'est un projet 2027. C'est un projet 2027. Bravo Vivi Création et force à ton fils, hein. C'est la présidentielle. Mais je vous en parlerai. Vous êtes incroyable, vous êtes incroyable. C'est cool de vous lire, hein. Bon les amis, vous êtes vraiment cool, c'est vraiment sympa de vous retrouver. Je vais me lancer un petit expresso. Arrête, tu vas encore me perturber avec ton histoire de président. Je ne sais pas si savoir. Je ne vais pas savoir si tu blagues ou pas. On en parlera. Ouais, et puis merci au modérateur, au modo. Merci de m'accompagner sur ces aventures parce que c'est grâce à vous si tout ça tient. Voilà. Ne lis pas ce message, Samuel, inutile, trop tard, beginner, je l'ai lu. Donc, merci, merci les amis, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Parfois, il y a des petites séquences plus agitées que d'autres. Il y en a une petite, là, récemment, vite fait, hein. Ouais, qui est quasiment passée, qui est en train de se terminer. Les polémiques sur Internet, c'est 3 jours. Donc, force à vous, parce que c'est pas forcément drôle pour vous, quoi. Mais c'est vous qui tenez la baraque, quoi. Samuel, tu vas nous faire une mame d'Annie de 1% dans les sondages jusqu'à la victoire. Eh ben, on va en parler. Tu parles du candidat démocrate à la mairie de New York, c'est ça? On va en parler ce matin. Ouais, ce serait le premier maire musulman, je crois, s'il était élu de New York. Ouais. Merci, Maury Artimus. Ouais, c'est le train de la hype, ça. Merci, Onimekyu. Merci, Kazlin, vous êtes incroyable. Merci, Bibi. Merci, Reflet. Allez, je vous montre le sommaire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vous le mets ici. Ouais, vous l'avez sur Twitch. Je vous le mets sur TikTok. C'est pour ça que je suis décalé à droite de l'écran sur TikTok. C'est parce qu'à gauche, je vous mets le sommaire. Voilà. Donc ça, c'est le sommaire. Ah, j'ai pas mis la petite flèche. Ah putain, j'ai pas la petite flèche. Je sais plus comment. Je sais plus la mettre. C'est parce que j'ai un clavier. Ah zut, j'ai perdu ma petite flèche. Zut, comment je la crée? Ah oui, je vais la copier-coller chez vous. Attends, je peux faire ça? Attends, attends. Comment je fais pour la copier? Je peux pas copier un bout de votre message? Non, mais un tir au pire, non, on veut une flèche ici. Comment ça se fait? Comment ça, je peux pas copier un bout de votre. C'est bizarre, comment je peux pas coller votre. Est-ce que je. Ah, fais chier. Ah, faut que je vous trouve la flèche. Faut que je vous trouve la flèche. Alors attends. Tintin, je vous l'avoue. La flèche est dans le 72. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Petite trêve géographique. Je vais vous la trouver la flèche, moi. C'est important une flèche. C'est toi la flèche. Oh, c'est gentil ça. Oh, tu parles d'une flèche, toi. Ouais, il y a un zoo là-bas. Mais comment, pourquoi je peux pas coller une partie de vos messages? Copier. C'est fou, je peux pas vous répondre si je fais ça. Ah. Ah! Je crois que j'essaie. En faisant réponse, ça marche. Attendez. Attendez, on a peut-être sauvé le stream. Bougez pas. Il y a un monde où on a sauvé le stream. Il y a un monde où j'ai une flèche. Incroyable. Ah, c'est une petite flèche toute mignonne en plus. C'est une petite flèche de Twitch. Voilà, regardez. C'est une petite flèche shoot. Tiens. Et TikTok, vous êtes des beaux gosses, je vous la mets aussi la flèche. Bizarre cette phrase. Voilà. Le bonjour, c'est fait. Ok, on peut passer au sommaire alors. Ok. La flèche de Twitch n'est pas acceptée sur TikTok. Oh, vous êtes des. Oh! C'est dingue ça. C'est incroyable ça. Ah oui, alors Twitch ça fonctionne. Et TikTok ils en veulent pas. Et vraiment le soft de TikTok là pour streamer c'est un enfer. Hein. Je vous le dis moi. Ah je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Non, il marche pas sur mon clavier ça, le Moulbit. Je sais pourquoi ça marche pas. Ah oui, j'ai trop de caractère. Macron, quel héritage? On va faire plus court. Voilà. C'est très important les titres. Quel héritage? Voilà. Comme ça, je peux remettre un E à natalité. Ah, on est à deux doigts que ça marche. Oh, incroyable. Super, c'est incroyable. Regardez. Magnifique. C'est magnifique. Bon, bah voilà. Bon, on va y aller. Le sommaire. Et on commence le sommaire à quelle heure? 20 minutes, mais on est super en avance par contre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en avance comme ça? Pourquoi on tryhard ce matin? D'habitude, c'est une demi-heure le bonjour. Mais pourquoi vous m'avez fait accélérer? C'est à cause de TikTok, ça. Ils sont pressés. Ils ont trop de choses à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Zut alors. Allez, c'est parti. Bim! Bon, là, bon, puisque vous avez décidé de partir sur un train d'enfer, qu'est-ce qu'on a ce matin? Alors, Macron, quel héritage? Le handicap à l'école, le coût des maladies mentales, le Soudan dans l'horreur, ça c'est un sujet qui est très très fort ça. Un musulman maire de New York, point d'interrogation. La Chine et la natalité, je vérifie vos titres sur TikTok, je crois que vous avez tout. Voilà. Alors, il y a un truc dont tout le monde parle ce matin dans les journaux et je ne vais pas vous en parler. Oui, mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il? C'est les débats au Parlement sur le budget. Parce que, vous l'avez compris, la main est à l'Assemblée. Donc, comme le gouvernement a promis de ne pas utiliser le 49-3, c'est l'Assemblée qui a la main, qui propose plein de choses, plein d'amendements, plus d'impôts, moins d'impôts, et on fait ci, on fait ça. Alors, les débats sont assez passionnants. Mais qu'est-ce qui va rester de tout cela? Ben, on ne sait pas, en fait. Au final, qu'est-ce qui va être voté? Voilà. Notamment sur la fiscalité. Il y a plein de trucs extrêmement intéressants. Merci, ministre, pour le raid. Merci, Léon. Merci, Lost in a Maze. Vous êtes incroyable. Merci, Jérôme Collin. Notamment sur la fiscalité. Il y a quoi? Il y a notamment un nouvel ISF qui a été voté. Hein, c'est pas un IFI, un impôt sur la fortune immobilière que Macron avait mis à la place de l'ancien ISF. C'est un nouvel ISF. C'est pas l'ISF d'avant. L'impôt de solidarité sur la fortune, c'est un autre. Voilà. Mais est-ce que au final, cet amendement va-t-il réellement être adopté, quoi? Voilà, MMG le rappelle, si au final le projet passe par ordonnance, ils peuvent négliger tous les amendements. Donc, plutôt que vous parlez pendant des jours d'un truc qui ne s'appliquera peut-être pas, moi je trouve que c'est trop confusant, j'attends d'être à peu près sûr. Parce que si tous les jours je vous raconte ce qui se passe au Parlement, mais qu'au final, dans 2 mois, on se rend compte que bah, rien de ce dont on a discuté ne s'applique, on ne sera pas avancé. Non. Donc, je suis ça avec beaucoup d'intérêt, mais j'attends d'avoir des choses un peu plus certaines, quoi. Voilà. Donc, par contre, je vous ai trouvé un dossier politique qui prend un peu de recul, que je trouve plutôt intéressant, et qui n'est pas très loin de tout ça, qui est celui-ci qui est en une de l'opinion, vous le voyez. Privé de bilan, Macron rêve d'héritage. Vous savez que la cote de popularité du président n'est pas folle. Faute de réussir à sauver sa réforme des retraites, le président de la République tente de mettre en avant le reste de sa legacy. Ah, pourquoi legacy? Pourquoi pas héritage? Bah parce que je sais pas, il paraît qu'à l'Élysée, nous raconte l'opinion, il se pique de ce mot anglais. Il prédit, oui, il faut qu'on travaille sur la legacy du président. Voilà, c'est petite mode élyséenne. Faute de réussir à sauver sa réforme des retraites, le président de la République tente de mettre en avant le reste de son héritage. Nous, on va plutôt utiliser ce mot, hein. Sur fond d'impopularité record, privé de bilan, Macron rêve d'héritage. La question, c'est qu'est-ce qui va rester des 2 mandats du président Macron? De quoi vont se souvenir les Français dans les prochaines années? De quoi les livres d'histoire vont-ils se souvenir? De quelque chose? De rien? C'est un peu le dossier de l'opinion et c'est assez intéressant. Voilà. ce petit pas en arrière. On va se pencher là-dessus. Deuxième sujet, je vais très vite puisqu'on est dans le sommaire. C'est un sujet dont je vous parle souvent parce qu'il est essentiel. Un sujet qui n'est pas assez traité, même si long, même s'il est beaucoup plus traité dans les médias qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. C'est le handicap. Le handicap dans notre société, on a une société qui n'est pas encore assez inclusive, qui l'est plus, bien plus qu'elle n'a été dans le passé. Ça ne veut, voilà. En disant ça, ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Au contraire, ce que je vous dis régulièrement, c'est que ça n'est pas assez. Mais dire par exemple que rien n'a été fait depuis 30 ans, puisque j'ai le privilège de la vieillesse, donc je peux avoir un petit peu de recul, ce serait stupide parce que c'est faux, des choses ont été faites, hein, mais pas assez. Voilà. Et là, on a un gros coup de projecteur de la croix là-dessus, sur, pour le coup, le handicap à l'école, hein, l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école. Voilà. Et la croix constate que ça craque. Bien qu'en augmentation, les moyens manquent pour répondre aux besoins d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Bon, régulièrement, je vous en parle parce que je pense que l'un des critères pour mesurer le degré d'avancement d'une société, d'une civilisation, c'est notamment la manière dont cette société, cette civilisation traite les plus fragiles d'entre nous, notamment les personnes en situation de handicap. Voilà, il n'y a pas assez d'AESH, notamment Aquafolon, tu as tellement raison. Moi, président de la République, ce sera un de mes dossiers prioritaires. Voilà. L'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, notamment à l'école, dans le monde du travail aussi, dans les transports. Et je rêve d'une France qui devienne un espèce d'exemple à l'international sur ce sujet. Voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure. Alors ça, c'est une des premières fois. Tu vois, en fait, ça, c'est un manque de recul si vous êtes trop jeune. Tu vois, il y a FCM qui dit « Je suis pas d'accord !» Pardon pour cette voix débile. C'est pire qu'avant au niveau du handicap à l'école. Voilà. Toi, tu compares il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 2 ans. Voilà. Moi, j'ai la vieillesse en avantage et en privilège. Et moi, j'ai passé mon bac en 1989 et je sais exactement quelle était la situation du handicap il y a 30 ans dans notre pays, ou il y a 40 ans, puisque moi, j'étais scolarisé à cette époque-là. Et il y avait rien. Ou presque pas. Voilà. Et les choses ont changé. Et c'est deux choses de dire qu'on n'a pas fait assez et de dire qu'on n'a rien fait. Tout ce qui est excessif, en fait, rend ton argumentaire trop fragile. Si tu dis à des gens chargés du sujet, des politiques ou des associatifs, on n'a jamais rien fait en France sur le handicap, bah, les gens vont dire, bah si, il y a eu des lois, il y a eu des moyens. Ça n'existait pas, moi, à mon époque. Alors on a fait ci, on a fait ça. Et du coup, ton argument, il est tout, 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 tout fragilou. Si tu dis en revanche, des choses ont été faites ces dernières décennies, mais on est loin du compte, et il faut faire bien plus, ça c'est pertinent. Ça c'est pertinent. C'est deux choses différentes. Voilà. Comme le dit Olinox, il y avait tellement rien avant qu'on n'en parlait pas du tout. Et les médias n'en parlaient absolument pas, la situation du handicap en France. Voilà. Là, on en parle très régulièrement. En tout cas, dans les médias que moi je consomme. Voilà. Force aux AESH d'ailleurs. On va parler de maladie mentale aussi, un sujet qui me tient à cœur, dont on parle régulièrement aussi. Là aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et c'est la première fois que je vois l'angle traité par le sujet traité par l'angle économique. Le coût pour la société des maladies mentales, dites mentales, c'est un papier dans Les Échos, c'est un journal économique, l'écrasant fardeau économique de nos maladies mentales. Les maladies mentales coûtent 163 milliards d'euros par an à la France, selon une étude de 2023. Pourtant, la recherche en psychiatrie reste sous-financée, freinant les innovations. C'est extrêmement intéressant. Voilà, on est dans une société qui ne s'intéresse pas assez aux maladies mentales, qui ne met pas assez de moyens pour aider ceux qui sont en difficulté sur le sujet. Et pourtant, le coût pour la société, comment est calculé ce chiffre, on verra ça tout à l'heure, il est gigantesque. Donc, ça veut dire que même pour ceux, on va dire, qui auraient décrété que c'est pas important, ou qu'on s'en fout, de toute façon, moi je serais jamais concerné, vous voyez ce genre de discours. C'est dans la tête, hein, ce genre de discours rétrograde sur les maladies mentales. Eh bien, à ces gens-là, il faut dire, ouais, sauf que, en fait, ça a un coût exorbitant pour les finances publiques de ne pas s'en occuper sérieusement. Et rien que pour des raisons économiques, il faudrait y mettre plus de moyens. C'est plutôt intéressant, je trouve. On lira ce dossier. Donc ça, il y a beaucoup d'articles ce matin. J'ai eu du mal à trouver un article un peu général, un peu clair pour nous faire comprendre la difficulté de ce qui se passe au Soudan. Donc, autre actualité ce matin. La guerre civile au Soudan enfonce le pays dans l'horreur. Il y a plein de papiers, d'articles ce matin dans la presse sur ce qui se passe au Soudan. Une situation que je ne connais pas bien, une actualité que je n'ai pas bien suivie. Et la Croix va nous remettre un petit peu à niveau sur ce sujet. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont commis, écrit le journal, des massacres dans la ville d'El Fasher. Vous n'avez peut-être entendu parler de ça. Ça a dû auditorer. Mais la communauté internationale semble impuissante. Voilà. Là, on a des... Enfin, je vous lirai l'article tout à l'heure. Les faits sont monstrueux. Un vrai carnage, comme dit Citus. Exactement. Merci Raleur pour le soutien. Merci Lady and Bird. Merci Durusu pour le raid que j'avais pas vu. Merci Lost in a Maze. Merci Jérôme Cola. Ouais. Et puis, on a ce gros dossier. Là aussi, plusieurs journaux en parlent ce matin, mais le plus gros dossier est dans l'IB sur celui qui pourrait être le prochain maire de New York, qui est un démocrate. Il s'appelle Zoran Mamdani, démocrate et socialiste, proche des idées de Bernie Sanders. Bernie Sanders, c'est un peu la gauche aux États-Unis. Musulman, le jeune élu du Queens, favori de l'élection municipale de mardi, représente tout ce que les Trumpistes détestent et suscite l'espoir d'un renouveau politique à gauche. Quelqu'un sur le chat TikTok me disait tout à l'heure, mais pourquoi musulman? Pourquoi on précise musulman? Pourquoi on précise? Alors qu'on ne précise pas toujours, par exemple, le catholique. Pour un homme politique ou une femme politique aux États-Unis. Alors d'abord, on le précise parfois, avec la foi, étrangement, la religion joue un rôle parfois assez important dans la vie politique américaine avec des candidats qui se revendiquent, par exemple, assez fortement de la chrétienté, de ses valeurs, qui mettent ça très en avant. Donc il y a un rapport à la religion qui est bizarrement présent dans la vie politique américaine. Voilà. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'élus à des postes de premier plan, enfin, et notamment à des mairies, il n'y a pas beaucoup d'élus de grandes villes musulmans. Voilà. Et c'est en cela que c'est pas forcément une info, mais parce qu'en fait, qu'ils soient musulmans, peu importe, mais par rapport à la vie politique américaine, c'est une espèce de. C'est une forme de nouveauté. Voilà. Donc c'est ça. Bah, c'est une minorité. En tout cas politique. Voilà. C'est pour ça que c'est... Enfin, il est aussi mis en avant par Libération comme un démocrate. Regardez l'ordre des mots d'ailleurs. Démocrate d'abord. Socialiste. Alors socialiste aux États-Unis, ça pour le coup, c'est assez étonnant. Proche des idées de Bernie Sanders et par ailleurs musulman. Quoi. Voilà. Et là, on a un gros dossier. On a un gros dossier. Zoran Mamdani, démocrate socialiste, cauchemar des Trumpistes. Voilà. Élu du Queens, 34 ans. Ben moi, j'aurais mis en avant ça plutôt. D'ailleurs, il est très très jeune. 34 ans, c'est très très jeune, quoi. Ah. Merci PeeWiz94. C'est très très jeune, ça. Merci pour le message aussi. 34 ans, pourrait devenir le premier... Ah, ben voilà pourquoi on en parle. Le premier maire musulman de la plus grande ville américaine. Ouais, New York n'a jamais eu de maire musulman. Mardi 4 novembre. C'est demain? Ah oui, d'accord, ok. Et imposer une nouvelle stratégie aux démocrates face à Trump. Ah, ça pourrait modifier la façon dont les démocrates s'opposent à Trump. Dossier extrêmement intéressant. On a aussi une interview de chercheuse américaine qui nous dit que les jeunes américains estiment que leur démocratie n'est pas à la hauteur. On lira ce dossier, je pense qu'on va apprendre plein de choses. Voilà. Et on terminera, je crois, ouais, avec ce sujet. Bon, dans ma revue de presse, je mets plein de sujets qui sont un peu mes marottes. Aujourd'hui, par exemple, on va parler du handicap, on va parler de la santé mentale. C'est des sujets qui, pour moi, sont importants, qui reviennent plus souvent, peut-être, sur ma chaîne que dans des médias traditionnels. Et la question de la natalité, je la trouve très, très, je la trouve importante aussi, sociologiquement, philosophiquement, économiquement, hein. Avec par exemple des pyramides des âges un peu bizarres qui posent des problèmes de financement des systèmes de protection sociale, notamment des retraites en France, mais dans quasiment tous les pays du monde. Et en Chine, c'est très curieux, en Chine, il y a une politique officielle maintenant de relance de la natalité à tout prix. Hein ? Donc on va lire ce papier. Et puis les plus anciens d'entre nous, et ceux qui aiment un peu l'histoire, savent que la Chine, longtemps, a imposé au couple chinois de n'avoir qu'un enfant. C'est ce qu'on appelait la politique de l'enfant unique. Donc, vous avez quand même un pays, hein, où un pouvoir, qui est un pouvoir dur, qui est un pouvoir autocratique, hein, impose à ses citoyens, ben, un jour d'avoir un enfant. Puis alors, les sanctions quand t'avais pas, quand t'avais plus d'un enfant, c'était hardcore, quoi. Donc, à une époque, c'est un enfant, puis un jour, du jour au lendemain, t'as des gars dans un bureau qui disent, ah bah non, en fait, ah bah non, ça va plus là, parce que ça pose des problèmes de croissance, de financement, de plein de choses et tout. Et donc, maintenant, ils disent, bah non, maintenant, donc le, voilà. Et donc, ça ne va pas du tout, et ça ne va pas du tout. Et ça ne va pas du tout. Comme je le dis souvent, la décision d'avoir un enfant est une décision qui doit se prendre dans l'intimité de la famille, de l'intimité de la famille. Les gens qui veulent plein d'enfants, fine. Les gens qui veulent deux enfants, fine. Les gens qui veulent un enfant, fine. Les gens qui ne veulent pas d'enfants, lâchez-leur la grappe. C'est une décision personnelle, intime, quoi. Le pouvoir, quelque pouvoir que ce soit, ne devrait jamais se mêler de dire à des familles, voilà, vous devriez avoir zéro enfant, un enfant, deux enfants, trois enfants. Donc la Chine, à chaque fois, ils sont à fond là-dessus, quoi. Bon, on ira là-dessus, puis ça nous permettra de réfléchir aussi sur notre système. Voilà, les amis, pas mal, hein? Je fais ça tous les jours, Gabin. Ouais, Gabin, tous les jours, du lundi au vendredi, tous les matins. Trop d'humains, pitié, faites pas d'enfants. Bah voilà, Octu, c'est ce que je viens d'expliquer. Lâchez la grappe des gens. Octu, tu veux pas d'enfants? Tu fais pas d'enfants? Tu estimes que faire des enfants, c'est une catastrophe pour l'humanité, pour notamment le poids que les habitants font supporter à cette terre? Ok, ne fais pas d'enfants. Mais cette injonction de dire aux autres, ne faites pas d'enfants. C'est aussi horrible que si des gens s'adressaient à toi en disant, mais tu n'as rien compris, il faut faire des enfants. Voilà. C'est insupportable, en fait. Laisser les gens décider en leur âme et conscience ce qu'ils veulent faire de leur vie, de leur famille. C'est fou, ça. Et encore une fois, d'ailleurs, le problème, c'est pas tant le nombre d'habitants sur la Terre, c'est la façon dont ces habitants se comportent qui est problématique. Il y a trop, mais non, mais non, mais tu n'as pas travaillé sur le sujet. Il y a Octu qui dit, il y a trop d'humains, c'est évident. Octu écrit ses opinions comme des faits. Octu n'est pas en train de dire, moi, à titre personnel, j'estime que. Octu nous dit, il y a trop d'humains, c'est évident. Si tu travailles un petit peu le sujet, tu vas te rendre compte que les démographes, qui longtemps ont cru que l'humanité allait être débordée par le nombre d'habitants sur la Terre, les démographes, depuis très longtemps, nous ont expliqué qu'il va y avoir un pic d'habitants sur la Terre autour de 10 milliards, je crois, je ne sais plus combien. Dans quelques années, on va atteindre un pic et puis après, on va descendre. On va descendre après, parce qu'en fait, le taux de fécondité par femme, il baisse dans tous les pays du monde entier. Voilà. Bon, ça, les démographes le savent depuis longtemps, mais bon, et nous, on est encore sur des vieux schémas de Malthus, etc. Donc, on sait qu'on va atteindre un pic autour de 10 milliards, je crois, je ne sais plus combien. Après, ça va baisser, ouais, vers 2050, je ne sais plus. Parce qu'en fait, on fait de moins en moins d'enfants, et pas seulement dans les pays riches. Donc, la pression démographique mondiale va baisser. Et puis encore une fois, c'est le comportement de ces habitants sur la Terre qui est problématique. Si tout le monde se comporte en tant que consommateur comme des Américains ou des Européens ou même comme des Français, bah oui, c'est insupportable pour la planète. En revanche, si tout le monde se comporte comme des habitants un peu plus frugaux dans leur consommation d'énergie ou de matières premières, nos problèmes en fait. Nos problèmes, en fait. Voilà. Donc c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, quoi. Et encore une fois, laissez tranquille les gens, quoi. Laissez tranquille vos voisins, quoi. Ils veulent pas d'enfants, respectez-le. Ils veulent les enfants, mais respectez ça. C'est dingue, ça. Pardon, mais pour moi, vouloir imposer ses opinions en la matière, c'est totalement fasciste. C'est totalitaire. N'imposez pas votre opinion personnelle sur la question de la natalité aux autres. Respectons les gens qui ne veulent pas d'enfants et respectons les gens qui veulent les enfants. C'est fou, ça. C'est la manière dont les gens se comportent qui est problématique. C'est pas le fait qu'il y ait une humanité. Très bien, c'est un débat très intéressant que tu as lancé. Samuel, tu as tort. Merci, Tac Forever. Merci. Tort, c'est T-O-R-T, par contre. Merci beaucoup. Allez, on part sur Macron. Je vais me faire un petit café. Comme je vois que vous êtes chaud. Alors, on va mettre une petite fléchouille. Alors, attends. Attends, je le ferai après le café. Bougez pas. Alors, on a combien? On est à combien? On est à 40 minutes, c'est bien. On est sur un rythme d'enfer, c'est fou ça. Let's go. À bientôt, les modérateurs m'ont envoyé un message hyper gentil là sur un nouveau sommaire qu'on pourrait mettre en place qui serait à la fois plus joli et plus simple à. Très cool ça. C'est incroyable, on va regarder ça. Ok, let's go. Hop. Voilà. Macron, quel héritage? Très intéressant ce sujet. Voilà. Tiens, j'ai l'impression que mon image est gelée sur TikTok. C'est gelé chez vous aussi sur TikTok? Ah oui, vous aussi c'est gelé. Ah oui, il est bien cassé. Ah ouais, c'est cassé. Bah, je crois que c'est la fin du live sur TikTok. Désolé. C'est marrant, ça, elle est cassée. Oh, je vais peut-être vous recréer une scène. Je vais essayer de vous recréer une scène. Alors, le gâteau 60x. Ok. Il rigole? Non, si ça marche pas, moi, si ça marche pas, je m'énerve jamais. Moi, je. Ah oui, je sais que vous m'entendez. Je vais vous recréer une scène pour voir. Alors, attendez. Vous bougez pas? Le gâteau. C'est une capture. Est-ce que c'est une carte de capture? Je pense que oui. Ah, il la voit plus. Bougez pas.
Magie de l'informatique.
Magie de l'informatique. Désolé, ami TikTok, je crois que vous n'allez pas avoir de revue de presse ce matin. Ouais, en fait, le. Ah si, la voix, là, pourtant. Hop. Hop. Ah ouais, il la voit plus, il voit plus la Elgato. Ouais. Annulé. Ah, là, il la voit. Ok, je vais vous mettre la bonne résolution. Juste l'audio au pire. Ah non. Non, c'est pas grave, vous viendrez sur Twitch. Excusez-moi, ami de Twitch, hein, j'essaie de régler ça sur, pour les amis de TikTok. C'est l'informatique, ça, on est habitué, c'est rien du tout. 1920, 1080, ouais, c'est ça. Appliqué, non, vous ne l'avez toujours pas. Aucun signal vidéo. Ah ouais. Ouais, je suis en 60 FPS. Appliqué. Ah ouais, vous n'avez pas d'image. Ok. Bon, bah tant pis. Bah, c'est le mystère de l'informatique. Écoutez. Ouais, il voit plus cette caméra alors que sur Twitch elle marche bien. C'est comme ça, c'est comme ça. Si j'essaie de vous recréer une scène, je pense pas que ça puisse résoudre le problème. En fait, je pense qu'il voit plus la. Ouais. Ouais, je veux pas avoir le temps de régler ça ce matin. Tant pis les amis, je suis désolé. Ah, ce que je peux faire, c'est. Ce que je peux faire au mieux, c'est essayer de la relancer, ok? Donc je vais vous quitter sur TikTok un instant, je vais relancer dans 2 secondes. Et puis tant pis. Sinon, bah, je vais vous régler ça, puis je vous retrouve demain. Sinon, vous venez sur Twitch, ok? À tout de suite, bougez pas. Bon, on vient de dire au revoir 400 personnes. Ouais. Désolé, amis de Twitch, hein, j'essaie de régler ça. Ouais. C'est ça la magie de l'informatique. Hein? C'est quand, en fait, tout va bien, et puis au milieu d'un live, ça s'arrête. Mais fais une autre scène MDR. Tu crois que j'ai pas déjà essayé? Là, là, les champions de l'informatique, là. C'est incroyable. Merci le Cédicieux pour cette proposition de fou en vrai. Relance pour voir. Sinon, on va rester entre nous sur Twitch ce matin. Passer en live. Ouais, le gâteau, elle est cassée. Okay, bah je vais supprimer celle-là. Ça peut être mon boîtier d'acquis. Ouais, ça peut être plein de choses. Ouais. Capture. Carte de capture. Ajouter. Ouais, il la voit plus, ma Elgato. Ouais. Comme si elle était cramée. D'accord. Bah, je vais pas avoir le temps de m'occuper de ça ce matin. Tant pis. Allez, bye TikTok. Désolé les amis de TikTok, j'espère que vous nous rejoindrez sur Twitch. Ce matin, la revue de presse, c'est que sur Twitch. C'est comme ça. Let's go. Ça va créer beaucoup de frustration, c'est très bien. Ah oui, j'ai mon café aussi. Ok, du coup, je vous modifie le début du sommaire, puisqu'on n'est plus à 40, on est plutôt à 46. Ça nous avait pris un peu de retard. Même mettre 47. Ok. Voilà. C'est bon. À une époque, ça nous aurait énervé, hein. À une époque, ça nous aurait énervé. Voilà, maintenant, on s'en fiche. Si ça marche pas, eh ben, ça marchera demain. Alors, commençons par cette histoire de. D'héritage de Macron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'héritage de Macron? Alors que bah, le mandat n'est pas terminé, il reste un petit peu de temps hein, avant la présidentielle de 2027, quoi. Privé de bilan, Macron rêve d'héritage. C'est donc la une ce matin de l'opinion. Faute de réussir à sauver sa réforme des retraites. C'est déjà écrit Camille, regarde. Le président de la République tente de mettre en avant le reste de sa legacy. Pourquoi legacy? Salut Sissi. Sur fond d'impopularité record. L'examen du budget se poursuit à l'Assemblée, donc je vous l'expliquais tout à l'heure. Il y a les choses passionnantes qui se passent actuellement à l'Assemblée, au Parlement, sur le budget, mais on ne sait pas bien ce qui va sortir de tout ça. Donc moi j'attends avec impatience de voir des choses un petit peu votées définitivement pour vous reparler des discussions passionnantes sur le budget, notamment sur la fiscalité, notamment de ce nouvel ISF. Qui a été voté là ces dernières heures, mais j'attends un petit peu de voir à quelle sauce on va être mangé parce que j'ai pas envie de vous parler pendant des heures de choses qui ne s'appliqueront pas au final. Bon, du coup j'ai choisi de vous parler de ça ce matin. L'héritage de Macron. Donc l'examen du budget se poursuit à l'Assemblée. Vendredi, les députés ont adopté la suspension de la réforme des retraites, mesure emblématique du second mandat d'Emmanuel Macron, et mis en place une nouvelle forme de l'impôt sur la fortune immobilière qui intègre les actifs financiers. Mais on exclut la résidence principale. C'est extrêmement intéressant. Là, on a un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours à l'Assemblée. Je vais vous le relire d'ailleurs. Les oppositions revendiquent le détricotage du bilan du chef de l'État. Voilà. Donc, les choses dont je ne vous parle pas encore pour l'instant, et dont je vous parle dans les prochains jours, si c'est définitivement adopté, c'est exactement ça. Vendredi, les députés ont adopté la suspension de la réforme des retraites, mesure emblématique du second mandat de Macron, mis en place une nouvelle forme de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc c'est pas l'ancien IFI, c'est pas l'ancien ISF, c'est un truc hybride, hein, qui intègre les actifs financiers dits improductifs, je crois, mais en exclut la résidence principale. Franchement, j'attends vraiment de voir si ça se sera définitivement adopté avant de vous en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit à l'œuvre une forme de détricotage du bilan, des mesures, des réformes du président Macron pendant ses deux mandats. Les gens qui sont en train de commenter le dispositif fiscal qui vient d'être voté à l'Assemblée, franchement, vous perdez votre temps. Attendez de voir ce qui va être réellement adopté. Là, c'est vraiment... l'actu est suffisamment riche et protéiforme pour ne pas vous demander, mais alors, est-ce qu'on va pouvoir sortir l'appartement? Est-ce qu'il y a un seuil de déclenchement? C'est quoi le taux? Franchement, tout ça, je l'ai lu ce matin. À la fois, c'est passionnant, et en même temps, on ne sait absolument pas si ça va s'appliquer. Franchement, mettez-vous ça dans le coin de votre tête, on y reviendra dans quelques jours, dans quelques semaines. Ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon là-dessus. On ne sait absolument pas si ça va s'appliquer. Attendons. C'est vraiment de l'énergie perdue, quoi. Alors penchons-nous sur le bilan du président Macron. Le bilan est mort, vive le bilan. Face aux assauts répétés et continus des oppositions contre la réforme des retraites en particulier et contre sa politique en général, Emmanuel Macron prend finalement sa perte. Ah oui, comme quand on fait un placement. Quand on fait un placement et que ça n'a pas bien marché, à un moment on prend ses pertes. Okay. Après avoir vainement tenté de défendre le texte emblématique de son second mandat, ça c'est la réforme des retraites, le chef de l'État s'est finalement résigné à laisser faire les députés. C'est toi qui as la tête sur le bio, lui ont confié plusieurs interlocuteurs pour le convaincre de reculer sur cette question. Tenir, c'était de toute façon prendre le risque d'enclencher un cycle fatal, censure, dissolution, démission. Le président Macron avait parlé de la réforme des retraites comme de la mère de toutes les batailles. Et finalement, il a lâché... En tout cas, il semble avoir lâché du lest et il a laissé faire l'Assemblée, les députés, mettre cette réforme des retraites en pause. Mais plutôt que de s'acharner à défendre un bilan dont l'Assemblée détricote chaque jour qui passe un nouveau morceau, le chef de l'État s'emploie désormais, c'est ce que nous explique l'opinion ce matin, à écrire sa legacy. C'est quoi, legacy? Littéralement, héritage. Mais... L'opinion a constaté que les proches du président, le premier cercle présidentiel, se sont pris d'affection pour cet anglicisme, le legacy du président Macron. Vous savez quoi? Nous, on va dire héritage, je pense. Évidemment que ça ne fait pas plaisir et que c'est douloureux, mais une réforme des retraites n'a jamais fait le bilan d'un président, observe un proche du chef de l'État. On s'attache à des totems parce qu'il y a une volonté généralisée des oppositions de détruire le macronisme, mais les fondamentaux demeurent. Dans l'entourage du président, alors, c'est très intéressant, on va prendre le temps un petit peu. C'est quoi les fondamentaux du macronisme? Qu'est-ce qui reste du bilan du président Macron si on enlève la réforme des retraites? Dans l'entourage du président, on évoque la politique de l'offre, poursuivie avec constance pendant 7 ans, pour tenter de faire du pays un pays business-friendly. Décidément, on est sur plein d'anglicismes, accueillant pour les affaires et la rendre attractive au portefeuille des investisseurs étrangers. On rappelle les ordonnances de 2017 pour assouplir le marché du travail et faire baisser le chômage. On vante la reconstruction de Notre-Dame et le succès des JO, tous deux assurés grâce à des lois d'exception décidées par Emmanuel Macron. On défend le réarmement des services publics, avec la hausse des effectifs dans la justice ou la police, l'augmentation des budgets de l'armée ou de la santé. Voilà. Donc, d'après les proches du président, le bilan Macron, ce serait ça. Ce serait une politique constante de l'offre pour rendre accueillante aux yeux des investisseurs, et notamment étrangers, la France. Les ordonnances pour assouplir le marché du travail et faire baisser le chômage. Je ne sais pas s'ils mettent là-dedans le durcissement de les plusieurs réformes de durcissement de l'assurance chômage, peut-être. La reconstruction de Notre-Dame, le succès des JO, tous deux assurés grâce aux lois d'exception décidées par Macron, le réarmement des services publics, la hausse des effectifs dans la justice, dans la police, l'augmentation des budgets de l'armée ou de la santé. Voilà. Évidemment, vous rajoutez, ça c'est ce que disent les proches de Macron, évidemment, vous rajoutez des choses à tout ça, vous rajoutez notamment la dette, qui n'a jamais été aussi haute en France, vous avez été nombreux à me parler des gilets jaunes, de la montée du RAM, la montée du RN, le ruissellement braconnier, le mensonge, dit Whoopi, je vous lis. Mais là, bien sûr, ce sont les avis des proches de Macron. Des proches qui disent aussi, la période de Macron-bashing actuelle rend invisible toute une partie du bilan. Salut, ami Canella, assure un proche du président. Les formes de structure ont été faites, mais la plupart de leurs effets ne se feront sentir qu'après 2007. Et c'est bien le problème, faute de résultats probants dans l'immédiat, si ce n'est celui du chaos politique provoqué par la dissolution, plus personne ne veut entendre parler d'Emmanuel Macron, ni l'entendre parler d'ailleurs. Bon. En vrai, ça s'applique quasiment à tous les présidents de la 5e en fin de mandat, si je puis me permettre. Lorsqu'ils tentent de remettre un pied dans le débat national pour dire tout le mal qu'ils pensent de la suspension de la réforme des retraites, tout le monde se détourne. Qu'ils se taisent, clament les députés de tous bords, lui reprochant de compliquer des discussions déjà difficiles sur le budget. Ce que plusieurs disent dans le chat, d'ailleurs. Hein. On ne veut plus l'entendre, je vous vois. De façon forcenée, Macron pense avoir raison contre tout le monde. Mais à un moment, on ne peut plus gouverner contre le pays, enrage un poids lourd socialiste. Même au sein de son gouvernement, on s'agace de ses prises de position. Il doit maintenant laisser Sébastien Lecornu gérer le national, au moins sur le budget. Le Premier ministre doit avoir le champ libre, plaide un ministre. Alors ça, c'est en France, avec une étoile du président qui a pâli. Mais en Europe, l'étoile du chef de l'État pâlit aussi, chef de file de la fronde contre le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Hein, c'est le traité du Mercosur. Emmanuel Macron s'apprête à laisser passer la ratification du Mercosur lors du prochain Conseil européen des 18 et 19 décembre. Ce sera l'occasion de reparler ici longuement de cet accord du Mercosur, qui va sans doute bientôt passer. Défaite symbolique et cruelle, malgré les tentatives de Paris de maquiller le camouflet en semi-victoire avec ce traité, c'est le leadership européen du chef de l'État qui s'envole. Donc, affaibli sur la scène national, affaibli sur la scène internationale, même lorsque le chef de l'État tente le pas de côté, ça n'imprime plus non plus. La semaine dernière, sa tentative de lancer un débat sur les dangers des réseaux sociaux a tourné court. À l'aube des élections municipales et de la prochaine présidentielle, il s'agissait pourtant de mettre en garde contre les tentatives de manipulation de l'opinion par des puissances étrangères, Russie en tête, qui sont de réels dangers. Il s'agissait aussi d'alerter sur les dangers des écrans pour les plus jeunes, et ça aussi, en tant que tel, c'est plutôt intéressant. Atteinte à la liberté d'expression, lui ont répondu ses opposants. Le chef de l'État avait pourtant pris soin de ne pas s'exposer en première ligne. L'idée n'était pas de faire un Macron show, il ne fallait pas rendre l'initiative urticante, explique l'entourage du chef de l'État, façon de reconnaître la réduction des marges de manœuvre présidentielles. Englué dans les tréfonds de l'impopularité, il vient d'égaler le record de François Hollande en fin de mandat. Je vous le disais, c'est quand même un grand classique en fin de mandat, la popularité des présidents qui s'écroule, quoi. Le chef de l'État voit ses troupes se détourner de lui. Édouard Philippe plaide pour sa démission. Il est lâché par ses anciens proches. Gabriel Attal ne le comprend plus. François Bayrou se tait, comme tous ceux qui pourraient encore le soutenir. Trop de coups à prendre, Emmanuel Macron est devenu comme radioactif, contaminant de son impopularité tous ceux qui l'ont approché de trop près. De toute façon, puisque le chef d'État ne peut pas se représenter, hein, la Constitution l'interdit, la suite s'écrira sans lui. Emmanuel Macron peut bien laisser tourner l'idée qu'il compte revenir, lui, en 2032. Personne ne voit aussi loin. Voilà. Pour l'heure, l'urgence est donc d'éviter la censure du gouvernement et la dissolution qui pourrait en découler. Et le problème, c'est que pour le président Macron, cette séquence, l'urgence est d'éviter une nouvelle chute de gouvernement, cette urgence passe par le détricotage en règle de la partie la plus visible du bilan du président. Façon de dire que le grand effacement du macronisme est en cours, qu'il n'y a plus que les meubles à sauver. La réforme des retraites est déjà en train d'y passer. Seul projet d'envergure de son second mandat. La suppression de l'ISF aussi, mesure emblématique de son premier quinquennat. Avec ces deux objets politiques symboliques, voilà toute la legacy d'Emmanuel Macron. Menacé. Au regard des débats en cours à l'Assemblée nationale, où les taxes et impôts nouveaux fleurissent au fil des amendements, le doute s'installe sur la pérennité de l'héritage que revendique désormais le chef de l'État. Les agences de notation ont commencé à sonner l'alarme, dégradant la note de la France à plusieurs reprises. Le risque est à long terme quand la défiance que les marchés commencent à manifester à l'égard de la France se traduira par des hausses des taux d'intérêt, réduisant encore plus les marges de manœuvre du pays, là encore avec un président renvoyé au banc des accusés. La dernière phrase, elle est intéressante. Ceux qui nous accusent d'avoir aujourd'hui endetté le pays étaient tous en train de défiler dans le bureau de Bruno Le Maire pendant le Covid pour nous demander de dépenser plus, s'étrangle l'un des derniers fidèles du président. Ils sont de moins en moins nombreux aujourd'hui. Ils le seront encore moins demain. Ça s'appelle une fin de règne. Je sais pas ce que ça vous inspire. Le bilan, la legacy du président Macron. Je vous lis. Merci Soazan, merci Flamme d'Argent, merci Fabzia, merci Aflyers, merci Juju, merci Piwiz, vous êtes incroyable. Apparemment, on va être taxé même quand on habite à l'étranger, c'est vrai. Akiman est là, moi le conseil que je te donne, c'est d'attendre en fait. Il y a plein de débats au Parlement, c'est pas parce que c'est voté aujourd'hui que ça va s'appliquer demain. Franchement, on est au tout début de ce feuilleton sur le budget, donc ne te prends pas la tête avec ça. Voilà. Mais il faut attendre encore un petit peu pour être sûr de savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça n'est pas comme ça à la fin de chaque quinquennat, finalement? Nous dit Défécator. Alors, Défécator fait très attention parce qu'il utilise le mot quinquennat et il a raison parce que si tu intègres le septennat, ça change la donne. Quels sont les présidents de la cinquième qui ont été réélus? De Gaulle, il est élu en 69 après la réforme de l'élection du président au suffrage universel en 58 en 62, 62 et il part en 69. Donc De Gaulle n'est pas réélu. Hein, c'est un mandat, d'accord? Dans De Gaulle 58 constitution, 62 l'élection au suffrage universel. Donc il est élu président de 58 à 62, mais il n'est pas élu par les Français, il est élu par les grands électeurs. Ça compte pas. Donc 62, ça à l'époque c'est un mandat de 7 ans. Il démissionne en 69, donc un mandat, ok? Ensuite il y a Pompidou. Pompidou il fait un mandat. Ouais. Ensuite il y a VGE. Il est élu en 65? C'est 65 la réforme de la Constitution? Non, Pompidou, il fait pas de mandat, il meurt même pendant son premier mandat. Ouais. Donc, De Gaulle, un mandat, Pompidou, un mandat, VGE, un mandat. Voilà. Mitterrand, deux mandats, mais... Tadam! Hyper intéressant. Mitterrand, élu en 81. Voilà. Et obligé de passer par une cohabitation. Et Defecator, il le sait très très bien. C'est pour ça qu'il a dit quinquennat. On est encore au septennat à l'époque. Deux mandats pour De Gaulle. Non, il n'est pas élu en 58. Non, Defecator. Ah, t'as pas fait attention. Il est pas élu par les Français en 58. Il est élu par les grands électeurs. Je compte pas ça comme un mandat. Non, non. En 58, le président de la République n'est pas élu par les Français. C'est la réforme de 62, si je dis pas de bêtises, qui modifie ça et qui rend présidentialiste ce régime. En 58, il n'est pas élu par les Français. Il est élu par les grands électeurs. Moi, je considère pas ça comme un mandat que lui donnent les Français. Donc, les grands électeurs, c'est les élus, c'est les élus du Sénat, par exemple, c'est les maires, c'est les présidents de conseils régionaux, tout ça. Et donc, ça fait qu'un mandat, du coup. Donc, on est OK. Donc, Mitterrand, lui, il fait deux mandats, mais, voilà, il passe par une cohabitation de 2 ans. Et ça, il se refait la fraise. Mitterrand, il perd les législatives de 86, ok? Hein? On lui impose une cohabitation avec Chirac. Hein? Et ce qui est génial, c'est qu'en 86, Mitterrand est assez impopulaire, la preuve d'ailleurs, il perd les législatives, mais il se refait la fraise pendant 2 ans. Hein? Et il est réélu en 88. Et il fait un deuxième mandat. Donc on a bien une fin. En fait, Mitterrand, par la cohabitation, échappe à l'usure du pouvoir, ça c'est ma théorie, à l'usure du pouvoir qui marque tous les présidents de la Ve. De Gaulle, on veut l'oublier aujourd'hui, mais était détesté par la majorité des Français à la fin de son pouvoir. On a tous. Comment ça contient un partenariat rémunéré? Pas du tout, il n'y a pas d'OP là. Ah putain, j'ai pas viré la petite case. Il n'y a pas de sponsor ce matin. Et donc en fait, Mitterrand, il se refait la fraise pendant la cohabitation. Et il est réélu en 88. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une deuxième cohabitation? C'est ça, il y a une deuxième cohabitation en 88. C'est ça? 93, c'est ça. Balladur. Avec Balladur qui rêve de devenir président d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Deuxième cohabitation. Ouais. Ensuite, 95, si je dis pas de bêtises, c'est Chirac qui est élu, non? Pour son premier mandat. Et 95, voilà. Et Chirac, il va aussi se voir imposer une cohabitation avec Jospin, la gauche plurielle, qui va regonfler sa popularité. Et si je dis pas de bêtises, donc 88 plus 7. 95, et en 95, il est réélu. Voilà. Se refaire la fraise? Ah, c'est une très vieille expression de vieux, ça. Se refaire la fraise, c'est se refaire une santé, se refaire une santé. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, et puis après, il y a. Il est réélu en 2002. Voilà. Se requinquer, oui. Se refaire la cerise. Voilà. Il est réélu en 2002. Et après, Chirac décide que le septennat, c'est naze. Et il met en place le quinquennat. Voilà. Et du coup, en 2002, l'élection suivante, c'est 2007. Voilà. Et 2007, c'est Sarko. Et Sarko n'est pas réélu non plus. Voilà. Et donc, le propos que nous avions tout à l'heure, il est assez OK. C'est-à-dire que. Vous avez des fins de mandat de président de la Ve qui sont souvent très compliquées. Voilà. Ce que vit Macron aujourd'hui, bon, très très fort, hein. Mais l'article nous rappelle que Hollande, à la fin de son quinquennat, il avait une cote de popularité catastrophique, quoi. Donc, à la fois, on peut dire plein de choses sur le bilan de Macron, on peut dire plein de choses sur le fait qu'il a été un mauvais président sur plein d'aspects. Après, il faut se rappeler que. La fin de tout mandat présidentiel est très compliquée, sauf cohabitation. Puisqu'en période de cohabitation, le pouvoir, il n'est plus à l'Élysée, il est à Matignon, et l'usure du pouvoir touche Matignon et touche pas l'Élysée. Voilà. Tu as raison, Zoram. Macron n'a pas eu de cohabitation, il a été réélu. Ouais. Voilà. Macron, lui, a été est un des... Bah, final, et même le... C'est le seul président de la Ve. C'est le seul président de la Ve à être réélu hors septennat. Sarko aurait pu être celui-là, mais il a perdu. Voilà. En fait, Macron aurait gagné à entrer en cohabitation. Bah, c'est mon avis, oui. Mais tellement. C'est énorme faute politique de Macron. Énorme faute politique de Macron. Bon, ça, on en parle souvent. Macron perd les législatives après sa réélection à la présidentielle. Voilà. Il a enjambé cette élection législative, il s'est pas impliqué dans les législatives, il avait complètement oublié qu'un président, s'il n'a pas le soutien d'une majorité à l'Assemblée, il est nu de ses pouvoirs. Hein. Voilà. Si vous retournez au lendemain de son élection présidentielle, de sa deuxième élection, vous allez voir, il est totalement absent, il n'est pas là, il disparaît. Il ne fait pas campagne pour les législatives. Il se prend du coup des élections législatives catastrophiques pour son camp, voilà, avec une majorité extrêmement faible, extrêmement une majorité relative très faible. Et qu'est-ce qu'il fait un petit peu plus tard? Il dissout parce que pour régler le problème, et au lieu de régler le problème, il aggrave le problème avec un Parlement encore plus explosé, une Assemblée encore plus explosée et des forces encore moins fortes à l'Assemblée. Alors que la solution aurait été, après les premières ou les deuxièmes législatives, d'accepter une cohabitation, à lui de choisir, hein, ou avec la gauche ou avec le Rassemblement national, voilà, pendant laquelle il aurait pu bah un peu se. C'est quoi l'expression que j'utilisais tout à l'heure? Se refaire la fraise? Voilà. Sauf que la cohabitation, là, elle allait durer. Au lieu de durer 2 ans, elle allait durer presque 5 ans, quoi. Quoique non, parce qu'après, il peut redissoudre quand il veut, ouais. C'est vrai que c'était un cas de figure inédit, en fait. La cerise, plutôt, d'ailleurs. Ouais. C'est les fruits rouges, tout ça. Se refaire le kiwi? Ouais, non, c'est encore autre chose, ça. C'est passionnant, hein. Après, on fait le match, là, c'est facile, hein. Et c'est pas fini, ouais. Après, on aurait. Allez, je vous refais le match. Je vous refais le match. Ok? Je vous refais le match. Macron aurait dû accepter une cohabitation pendant laquelle, si on voit l'histoire de la 5e, il aurait pu regonfler sa popularité. Ok? Il nomme la gauche au pouvoir, ou le Rassemblement national, la gauche ou le RN affrontent la réalité du pouvoir, comme tous les pouvoirs exécutifs sous la 5e. Eh bien avec le lot de déceptions, de désillusions, de baisse de popularité qu'implique le pouvoir, voilà, et là Macron regarde. Il joue le rôle, que devrait jouer le rôle du président d'ailleurs dans la 5e si le système était sain, d'arbitre au-dessus des partis, le président de tous les Français, voilà, en donnant son avis de temps en temps. Comme ont fait Chirac et Mitterrand pendant les périodes de cohabitation d'ailleurs, c'est une position plutôt confortable, où c'est pas toi qui décides, mais où tu donnes ton avis quand même, parce que tu as les pouvoirs que te confère la Constitution de la 5e République. Voilà. Et Macron aurait pu, voilà, en tant qu'arbitre, prendre un petit peu de recul comme ça. Et au moment où cet exécutif de cohabitation de gauche ou de Rassemblement national était le plus affaibli, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, bim, il dissout, voilà, et il finit tranquillement son deuxième mandat avec une majorité à l'Assemblée. Voilà, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Hein? C'est ça qu'il aurait fallu faire. Je pense surtout qu'il est blasé et qu'il n'en a plus rien à carrer et qu'il pense revenir comme l'homme providentiel dans quelques années, me dit Lord Tistou. C'est vrai que c'est une des difficultés, mais Samuel, je capte pas là, me dit Papa Ours. On n'a pas de cohabitation sans parti majoritaire à l'Assemblée. Si, point d'interrogation. Tu penses qu'il l'aurait fait à Lyon et non passé dans l'opposition? Alors, à la décharge de Macron. Sous Mitterrand et sous Chirac, c'était très clair. Quand Mitterrand perd les législatives, c'est la droite qui gagne les législatives. C'est quoi? C'était le RPR ou l'UMP à l'époque, je sais pas, c'est Chirac. Donc, il y a zéro souci. Donc, la droite est majoritaire à l'Assemblée, on nomme Chirac. C'est clair. Quand, quelques années plus tard, Chirac perd les législatives, même chose. C'est la gauche plurielle qui a une majorité absolue à l'Assemblée. Donc zéro souci, Mitterrand sait ce qu'il a à faire. Il nomme chez Jospin à l'époque, voilà. À Matignon. Là, quand Macron perd la législative, certes il n'a pas de majorité absolue, lui, Macron à l'Assemblée, mais comme vous le savez, le RN n'avait pas de majorité à l'Assemblée absolue, et la gauche non plus. Il y avait des majorités relatives fortes. Donc c'est là où il y avait une nouvelle règle, un nouveau jeu à inventer. Mais la logique aurait voulu qu'il nomme, c'est pour ça que je dis ou la gauche ou le RN, en gros, l'un de ces blocs, qui nomme un premier ministre de l'un de ces blocs. Mais ça, on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer, puisque c'est pas l'option qu'il a prise. Lui, alors Macron, lui, si je me mets dans sa tête, parce que c'est intéressant de comprendre pourquoi il a pris de telles décisions. Quand vous dites à Macron, quand les électeurs de gauche disent à Macron, mais t'as perdu les élections, c'est la gauche qui a gagné, il fallait nommer un premier ministre de gauche. Quand les électeurs du RN disent à Macron, t'as perdu les élections, gars, C'est le RN qui a gagné. Il fallait nommer un Premier ministre RN. Macron, il répond quoi? Il répond pas ça comme ça, mais en fait, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, les calculs sont pas bons, Kevin. Moi, si je prends les députés macronistes, et si j'ajoute les députés centristes, et si j'ajoute les députés LR, de droite républicaine, si je fais ma petite addition, ah ben, c'est moi qui ai la majorité. C'est pas vous. Vous avez faux. C'est ça la logique. Et c'est pour ça que Macron, il a nommé que des premiers ministres ou macronistes ou de droite depuis le début de son deuxième mandat. C'est parce que dans sa tête, à lui, il a la majorité. Sauf qu'en fait, cette majorité, elle tient pas, elle tient jamais. Elle tient jamais. Parce qu'elle repose notamment sur les députés LR et qui n'ont pas du tout envie de se rallier à ce point à Macron, quoi. Mais en fait, c'est ça la logique de Macron. Sauf qu'elle n'a pas marché. Voilà. Sa logique, c'est de se foutre de la gueule des Français en somme, dit Babar. Ben, c'est ça, c'est sa logique, quoi. Mais je pense que c'était la mauvaise décision. Il aurait dû laisser l'un des deux camps, la gauche ou le RN, se confronter au pouvoir, puis voir ce qui allait se passer. Il aurait pu. Attendez, attendez. Soyons bien. Alors 5 ans, c'est un peu court. Mais puisqu'aucun des deux camps n'avait vraiment gagné la législative, il n'y avait pas de majorité absolue pour le RN ou pour la gauche, il aurait pu commencer par exemple par nommer la gauche, espérer que la gauche, en 2 ans, s'épuise politiquement, nommer ensuite un Premier ministre RN, hein, voilà. Espérer que le RN s'épuise politiquement en 2 ans, mais 2 ans c'est assez court et en même temps c'est ce qui s'est passé lors des cohabitations précédentes. Voilà. Et il a un cooldown d'un an pour la dissolution, donc il peut dissoudre une troisième fois. Voilà. Et il dissout à 1 an de la présidentielle. Il obtient une majorité à l'Assemblée et puis il passe la main à un candidat macroniste. Voilà. Bon, enfin bon, on refait le match là, c'est facile. Mais tu parles de qui à gauche exactement? Très bonne question de diamant. Quand on dit à gauche, quand on dit gauche, ben, là, une majorité relative forte de gauche à l'Assemblée, c'est forcément en ajoutant les députés socialistes, écologistes, communistes et LFI. Voilà. Est-ce que ces gens ont réellement envie de gouverner ensemble? Ça, on l'aurait vu à l'épreuve du pouvoir. Peut-être que oui. Peut-être que non. Peut-être que ensemble au pouvoir, LFI et socialistes se seraient déchirés. Comme ils le font beaucoup quand ils sont pas au pouvoir d'ailleurs. Et là, c'était bon pour Macron. Mais quelle gauche au pouvoir? Très bonne question, ouais. Donc voilà. Voilà pourquoi on en est là. Voilà. Bon, à suivre. Mais en tout cas, cette question posée par l'opinion ce matin, elle est intéressante. C'est qu'est-ce qui va rester du bilan du président Macron? Si on enlève la réforme des retraites, si elle est suspendue, si elle ne s'applique pas, bah, il restera effectivement cette politique de l'offre, de rendre notre pays le plus séduisant possible aux yeux des investisseurs étrangers, la réforme du travail, le durcissement de l'assurance chômage, enfin la baisse des impôts également. Voilà. Pour ne garder que ce qui semble positif aux yeux des macronistes, bien sûr. Là, si on doit mettre le passif, évidemment que là, c'est du regard des macronistes. Si on veut mettre les choses au passif, on va mettre beaucoup d'autres choses. Allez, on parle de handicap? Allez. On parle de handicap. Deuxième sujet, ce matin, le handicap à l'école. Je vous le disais, c'est un sujet dont on parle plus aujourd'hui, le handicap. la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap de notre pays que il y a 10 ans, que moi j'ai pas mis de TC, que il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, mais on n'en parle pas encore assez. Voilà. Et les politiques d'inclusion ne sont pas encore ne sont pas encore assez importantes. Voilà. Et là, il y a un coup de projecteur de Lacroix sur le handicap à l'école. Voilà. Ça craque, dit Lacroix. Bien qu'en augmentation, les moyens pour accompagner les élèves en situation de handicap je regarde la modération. Sont plus importants qu'ils n'ont été, mais ils sont insuffisants, c'est ça. Ok. Ok. Bon, il y a des traits d'humour dans le chat qui ne passent pas, je vois là. Ok. Ok. Bien qu'en augmentation, les moyens manquent pour répondre aux besoins d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Malgré des moyens en constante augmentation, la prise en charge des enfants handicapés à l'école reste insuffisante, provoquant de nombreuses crispations chez les parents, chez les enseignants. Les besoins augmentent encore plus vite du fait de la volonté d'intégrer ces enfants en milieu d'ordinaire. Ordinaire, à une époque, c'était il y a quelques dizaines d'années de cela, cette volonté-là n'était pas là. Voilà. Et de diagnostics plus performants également. Voilà. L'Italie est souvent montrée en exemple. Alors moi, je connaissais pas l'exemple italien, mais il y a un coup de projecteur de la croix sur l'exemple italien. Qu'est-ce qu'on fait en Italie pour inclure les enfants en situation de handicap à l'école? Bon, c'est plutôt intéressant. Lisons cet article. Le 16 octobre dernier, à Vaux-en-Velin, dans le Rhône, les enseignants de l'école élémentaire Henri Vallon étaient en grève, réclamant deux accompagnants d'élèves en situation de handicap AESH supplémentaires. Voilà. Et un grand bravo à tous et toutes les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui travaillent dans des conditions très très difficiles, avec des contrats précaires, des contrats courts, avec un nombre d'heures par mois insuffisant, avec beaucoup de déplacements parfois d'une école à l'autre, avec des salaires insuffisants. Bon, là, il y a vraiment, si on a vraiment un souci là-dessus en France. Alors, il y a plus de moyens qu'il n'y a eu, mais il n'y en a pas assez, et notamment les AESH travaillent dans des conditions très très difficiles. Donc ça, il y a un truc qui ne va pas. Et là, par exemple, on avait des enseignants qui étaient en grève, donc dans le Rhône, parce qu'ils réclamaient deux AESH supplémentaires. Parmi les 266 élèves de cette école, 24 enfants sont porteurs de handicap, dont 7 à très haut besoin d'accompagnement. Pourtant, seuls 7 AESH sont déployés pour les encadrer, dont une partie est à l'arrêt. La même semaine, en Haute-Savoie maintenant, à Rumilly, parents, élèves, enseignants manifestaient contre la suppression de deux postes d'AESH au collège Le Clergeon. En octobre encore, les collectifs de chefs d'établissement de l'enseignement catholique de l'Académie de Bordeaux ont lancé un cri d'alerte, dénonçant notamment le gel des embauches depuis septembre 2024, qui oblige à fonctionner à moyens constants et malgré l'augmentation des moyens. Je lis plein de messages extrêmement touchants dans le chat. Je lis celui d'Aruka, par exemple. Ma maman est à AESH et franchement, je l'encourage tous les jours. Elle fait un travail monstre pour peu ou pas de reconnaissance. Je suis aidant, me dit ADN, et l'État nous aide encore trop peu. Manque de professionnels, manque de structure. J'ai pu travailler avec des AESH, c'est un enfer, force à eux, me dit Flizen. Voilà. Je suis AESH, je ne conseille pas ce métier, c'est des 3 ans avec 973 euros, me dit Limone 4593. Moi, je vous dis bravo. Moi, je vous dis bravo. Et j'espère qu'un jour, il y aura plus de moyens pour l'inclusion des élèves et que, notamment, les AESH pourront travailler dans de meilleures conditions avec de meilleurs salaires. C'est un très, très beau, un très bel engagement. L'énumération pourrait se poursuivre longtemps et je pourrais lire plein de messages dans le chat en ce sens, tant les moyens manquent partout en France pour répondre aux besoins d'accompagnement des élèves en situation de handicap. L'école inclusive, c'est un grand slogan, mais la réalité n'est pas là, déplore Jean-Yves Lewezek, qui est membre du collectif pour une école réellement inclusive. Seuls les chiffres révélés la semaine dernière à la rentrée de septembre sur 352 000 élèves qui devraient bénéficier d'un accompagnement, voilà, ça c'est les derniers chiffres. En France, on a 352 000 élèves qui devraient bénéficier d'un accompagnement. À la rentrée, 48 726 étaient sans solution, contre 38 000 dans ce cas en 2024. Donc là, pour le coup, on avait même à la rentrée dernière plus d'élèves sans situation, sans solution qu'à la rentrée précédente. Alors heureusement, le chiffre s'était un peu réduit au moment des vacances de la Toussaint. Donc on voit que sur le très long terme, la situation s'améliore un petit peu, mais là, à très court terme, il y a eu des problèmes, de gros problèmes à la rentrée dernière. L'école inclusive est sur le point de craquer, martèle une sénatrice socialiste qui s'appelle Colombe Brossel, qui a déposé une proposition de loi visant à intégrer les AESH à la fonction publique. Et pourtant, ils sont désormais 140 000, ce qui en fait la deuxième catégorie de personnel de l'éducation nationale. Et le projet de budget 2026 prévoit de consacrer pas moins de 4,74 milliards d'euros à l'école inclusive. Budget qui est en augmentation de 25% à 2022. On n'a jamais eu autant d'AESH. Le budget de l'inclusivité à l'école n'a jamais été aussi important. Augmentation de 25% par rapport à 2022. Et pourtant, ça craque. Et là, on va se poser la question, pourquoi ça craque ? Le nouveau ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, moi je m'y perds, hein, les ministres, ça change tellement, pointait le 22 octobre le manque de candidats pour les postes d'accompagnants. La question de l'attractivité pèse en effet sur les embauches d'AESH, métiers à temps partiel, mal rémunérés, aux alentours de 900 euros par mois, au statut précaire, c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure, mais ce n'est pas la seule raison. Lors d'une conférence de presse le 13 octobre, la rectrice de Montpellier montrait que l'augmentation des moyens dans son académie n'arrivait pas à suivre celui des besoins. Nous avons recruté 7000 AESH, 95 à la rentrée scolaire. Non, pardon, nous avons 7000 AESH, 95 recrutés à la rentrée scolaire, mais les notifications de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, structure qui gère les droits et les prestations des personnes en situation de handicap, croissent à une vitesse plus rapide que nos moyens. Donc on a un problème d'attractivité du métier et on a plus de familles, plus d'enfants qui demandent à être inclus dans un système scolaire normal. De fait, les demandes des maisons départementales, que ce soit pour un accompagnement individuel ou mutualisé en milieu ordinaire, une place en classe ULIS ou une place dans un établissement spécialisé sont toujours plus nombreuses. Handicap physique, trouble du spectre de l'autisme, trouble du développement intellectuel, trouble 10, des dyslexies, dysorthographie, etc. Les motifs sont multiples. Les troubles du spectre de l'autisme ont vu leur taux de prévalence augmenter dans la population générale, passant de 2 à 5 pour 10 000 personnes dans les années 90 à 1% aujourd'hui. Voilà. S'il n'y a pas de raison de penser que les troubles eux-mêmes augmentent, il y a eu un élargissement des critères des troubles du spectre autistique, ce qui élargit mécaniquement le nombre de cas diagnostiqués. Là, il y a un truc un tout petit peu positif, parce qu'on il y a beaucoup de choses négatives dans ce qu'on est en train d'évoquer. Mais on voit que si il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap qui demandent à faire valoir leurs droits, c'est parce qu'en fait, on détecte plus, on identifie plus aussi, et quelque part, on considère beaucoup plus le handicap qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Et donc les besoins ne cessent d'augmenter. Pas forcément, explique Lacroix, parce qu'il y a plus de Français en situation de handicap, mais parce que on s'en soucie plus. C'est ça la bonne nouvelle. Mais les moyens ne suivent pas. Il y a un chercheur au CNRS qui dit on détecte plus tôt les troubles du neurodéveloppement. Voilà, on diagnostique mieux. C'est ça, Pompidou. C'est ça, tu as raison. S'y augmentent les demandes de prise en charge dès les premières années à l'école. Ça, c'est positif. Enfin, des enfants qui ont longuement été catalogués comme des cancres du fond de la classe se voit aujourd'hui reconnaître des troubles hein, qui, avec un accompagnement adéquat, n'empêchent plus de progresser. À mon époque, pardon de parler comme un vieux, on ne parlait pas des 10, tout ça, de dysorthographie, dyslexie, ça n'existait pas. Alors bien sûr, ça existait, mais ça n'était pas diagnostiqué. De ma génération et même les générations qui ont suivi, il y a plein d'adultes aujourd'hui, demander des gens de plus de 30, 40 et 50 ans, qui en fait ont été diagnostiqués 10 à l'âge adulte et n'avaient pas été détectés quand ils étaient enfants, et donc n'ont pas pu bénéficier d'un accompagnement, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un peu mieux par rapport à ça. Je suis sûr que vous connaissez des adultes qui ont été diagnostiqués 10, mais adultes, quoi. Ce progrès dans les diagnostics s'accompagne depuis quelques années d'une volonté d'intégrer au maximum les enfants handicapés en milieu ordinaire, quand nombre d'entre eux se voyaient avant aiguillés vers des instituts spécialisés à la fin du primaire, ils sont désormais accueillis au collège et au lycée. Et ça, c'est nouveau. L'école étant aujourd'hui beaucoup plus ouverte qu'avant, donc on peut se lamenter sur ce qui ne va pas, mais ça, c'est positif, les parents voient une possibilité de dérouler une scolarité en milieu ordinaire pour leur enfant et demandent à la MDPH donc de décliner ce parcours. À diagnostic constant, de plus en plus de parents font valoir les droits à la scolarisation et à l'aménagement de leurs enfants, et de plus en plus de professionnels leur donnent satisfaction. Enfin, nombre d'enfants présentant des troubles sévères qui devraient être accueillis dans des instituts médicaux éducatifs, IME, les IME, n'y trouvent pas de place et se retrouvent en milieu ordinaire. Toujours le manque de moyens. Merci Arsenal, merci Soassan. Les IME, par exemple, sont complètement saturés en Seine-Saint-Denis, où on annonce 4 ans d'attente, 4 ans d'attente aux enfants notifiés. Donc il y a les enfants qui devraient être en IME et qu'on oriente vers le milieu scolaire classique, quoi. Résultat, les enseignants ont souvent plusieurs enfants en situation de handicap dans leur classe sans suivi et se retrouvent seuls à les gérer. La dernière étude Thalys de l'OCDE, publiée en octobre, montrait que l'hétérogénéité croissante des classes pesait sur le moral des professeurs. La proportion d'enseignants travaillant dans les écoles où au moins 10% des élèves ont des besoins éducatifs particuliers ayant bondi de 42 à 74% en France entre 2018 et 2024. Alors, moi, la Croix, c'est un journal que j'aime beaucoup. D'abord, c'est un journal qui s'intéresse à d'autres choses que les autres. La question du handicap revient beaucoup dans les pages de la Croix, par exemple. Et il y a aussi une volonté d'explication, de pédagogie, de clarté. Là, c'est un sujet qui est infiniment complexe. Je trouve que la Croix nous présente un tableau qui semble assez juste de la réalité. Salut Hugo. Pardon, je fais une parenthèse pour Hugo. Je reviens au handicap après. J'ai trouvé une offre d'alternance à l'Est républicain, excellent, dans leur service marketing. Très bien. Job de rêve pour moi qui souhaite inclure la PQR à mon quotidien. Avec ton bagage journalistique, tu aurais des conseils de trucs sur lesquels insister dans mon email de contact? Bon. Alors, moi, je dirais d'abord d'insister sur tes capacités marketing, si tu peux me permettre, Hugo. Parce que, certes, là, tu postules pour un journal, pour un quotidien et pour la PQR. Donc, sauf que là, c'est le service marketing qui recrute. Donc, ils ont besoin d'un bon élément en marketing. Donc, tout ce qui est positif dans ta formation, ton expérience en termes de marketing, il faut que tu commences par ça, si je puis me permettre. Parce qu'en fait, une entreprise, elle cherche quelqu'un qui peut idéalement utiliser le plus vite possible avec des compétences, quoi. Donc, moi, je commencerai par ça. Et dans un deuxième temps, dans ton mail, et dire aussi que tu as un vrai intérêt pour la presse, et singulièrement la presse quotidienne et la presse quotidienne régionale, ce qui semble être ton cas, pour montrer que, au-delà de tes compétences en termes de marketing, tu t'intéresses à l'entreprise pour d'autres raisons. Ça fait de toi un candidat, je trouve, intéressant, quoi. Voilà pour mon petit conseil du matin. J'en viens au handicap. Merci MMG pour ton message. C'est affreux. On parlait des temps d'attente pour rejoindre un IME. Il y a Genzar qui dit le problème de ce temps d'attente, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des demandes préventives pour la suite du parcours et de la personne. Or, une fois le délai d'attente passé, certains ne sont plus en âge pour l'IME et doivent faire une nouvelle demande pour un autre service et c'est reparti pour 2-3 ans d'attente. L'enfer. L'enfer pour les familles, quoi. Pop qui écrit, certains ne sont même pas accueillis en milieu ordinaire, leur handicap étant trop sévère ou trop médical. Ce sont les parents aidants qui arrêtent de travailler pour s'en occuper en attendant une place dans un établissement spécialisé, parfois des années d'attente. Hein, je crois que parfois il y a des familles qui vont qui quittent la France, d'ailleurs qui vont en Belgique par exemple. Hein, parfois contraints de déménager tellement les établissements sont rares. Coucou Alexandra. Voilà. Froloxeres. Je me permets d'apporter mon expérience en tant que père d'une enfant diagnostiquée TSA. TSA, c'est quoi? C'est trouble du spectre autistique, c'est ça? Nous nous heurtons à un mur d'incompréhension du personnel éducatif. Résultat, nous allons devoir la déscolariser pour la préserver. Ce temps d'attente est tellement une souffrance pour les élèves qui se retrouvent seuls, me dit Kalissa, et sans AESH, et les enseignants sont dépourvus face à ces élèves, puisque nous n'avons pas, Kalissa est enseignant ou enseignante, de formation adéquate, c'est tellement dommage. C'est très intéressant. Merci Toweli. Waouh! ADN, je suis dans ce cas, ma fille est en attente depuis 7 ans. Depuis 7 ans sur une liste d'attente d'IME. D'IME. Mélie Lazagne, 3 ans d'attente en IME pour mon fils, pour un jour par semaine au départ. Ouais. Oslo nous dit, bonjour Samuel, je suis avocat, j'ai accompagné à plusieurs reprises des familles d'enfants qui sont orientées vers des IME ou ULIS par la MDPH, mais qui se voient refuser la scolarisation dans ces dispositifs pour manque de place. Hein, des recours sont possibles devant le tribunal administratif pour obliger le rectorat à leur trouver de la place. Alors encore une fois, c'est quelque chose qui est très très dur à entendre, et ça je le conçois tout à fait. Hein. Notamment par les gens concernés et notamment les parents d'enfants en situation de handicap. Ce qu'on décrit là aujourd'hui, c'est ça ressemble un peu à un enfer. C'est un mot qui revient beaucoup dans le chat. Et pourtant, c'était pire avant. Enfin, ça me fait une belle jambe, hein, pourrait dire ces familles. Mais de l'époque d'où je viens, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, notre société globalement progresse un tout petit peu. Dans le diagnostic, dans la prise de conscience globale, sociétale, qu'on doit accompagner plus qu'avant les personnes en situation de handicap. Et on constate aujourd'hui que les moyens sont très insuffisants. Mais même si c'est très dur à entendre, ça reste un progrès par rapport à il y a 20 ans et 30 ans. Et encore une fois, ça vous fait une belle jambe. Hein. Ça vous fait une belle jambe. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Si je suis élu en 2027, ce sera un de mes premiers dossiers. Alors on attend des efforts du coup de l'État, bien sûr, mais on attend des efforts de tout le monde. Regardez le message de Lola. Regardez le message de Lola. Ma mère est professeure d'anglais spécialisée dans le handicap. Elle a formé des professeurs un peu partout dans le sud de la France en même temps. Malheureusement, certains profs refusaient d'adapter leurs méthodes d'enseignement, comme par exemple d'imprimer les contrôles en A3 pour faciliter la compréhension des consignes, etc. Il y a aussi des parents qui ne remplissent pas les feuilles données pour prévenir le professeur des méthodes qui fonctionnent pour leurs enfants. C'est vraiment un effort collectif. C'est Viadu qui me dit, j'ai eu un camarade de classe lourdement dyslexique en études sup qui m'a clairement dit qu'une génération avant, il aurait été en décrochage largement avant le bac. Voyez, comme je le dis souvent, la politique, si on veut résumer ce que la politique, c'est une question de c'est de la compta. C'est quelles sont les priorités pour notre pays aujourd'hui? Où est-ce qu'on met les moyens? Où est-ce qu'on met l'argent? Voilà. Et une fois qu'on a décrété ça, là on est en train de se rendre compte que sur la question du handicap, par exemple, il y a quelque chose à faire. L'argent, on va le chercher. La politique, c'est ça. Et c'est ultra noble. C'est ultra noble. La politique, ça devrait être ça. C'est collectivement où est-ce qu'on décide de mettre l'effort et comment on finance cet effort. Là, par exemple, on pourrait le travail qu'il y aurait à faire sur l'inclusivité des personnes en situation de handicap en France, c'est OK. Pour que l'inclusivité progresse à l'école, pour que l'inclusivité progresse au travail, dans les entreprises, pour que l'inclusivité progresse dans les transports. Combien il faut? Voilà. Quel est le plan d'investissement à faire? Sur combien d'années? Et une fois qu'on a calculé ce chiffre, on dit OK, et que ça, on le finance comment? Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en parler. De toute façon, c'est un sujet dont on parle souvent. Et attends, attendez, attendez. Il faut absolument que je n'oublie pas de lire cet article sur l'Italie, parce que La Croix nous dit que l'Italie, c'est le bon élève européen de l'inclusion. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si bien en Italie? Merci, Popki. Qu'est-ce qui se passe de si bien en Italie? Depuis les années 70, l'Italie a mis fin aux établissements scolaires différenciés et intègre tous les enfants souffrant de handicap dans le cursus scolaire ordinaire. La personne qui a répondu, qu'est-ce qu'il y a en Italie des pâtes? La personne qui vient de répondre des pizzas, vous n'avez pas tort, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Federico De Rosa a été diagnostiqué d'un trouble du spectre autistique peu avant ses 3 ans. Okay? Il ne peut pas parler. Passé le choc de l'annonce, son père, Oreste, l'inscrit à l'école. Il a appris à écrire très vite pour compenser et a fait toute sa scolarité normalement grâce aux enseignants de soutien qui l'ont accompagné tout du long. Arrêtez avec du risotto, les expressos. Arrêtez, arrêtez en vrai. Arrêtez, oh, putain. Une fois son bac en poche, Federico décide de se consacrer à sa passion, l'écriture. Il publie plusieurs livres, collabore pour la rubrique santé du quotidien La Repubblica, et depuis un an, il est invité dans toutes les écoles du pays pour promouvoir son manifeste de la différence heureuse et donner des conseils aux établissements sur l'inclusion des enfants souffrant de troubles autistiques dans leur parcours scolaire. C'est beau. Comme lui, il y a quelques années, en 2024, 359 000. Excusez-moi. Pardon. Bon, on parle du handicap. Il y en a comme Knack Forever, tout le monde t'a vu hein, dans le chat. On est en train de parler du handicap et il y a certains qui veulent utiliser ce sujet ô combien grave pour pousser l'idée selon laquelle la solution pour notre pays, c'est l'extrême droite. Franchement, vous voulez pas lâcher la grappe aux personnes en situation de handicap et pas la ramener? Hein? Tu me dis, mais pourquoi mon message a été supprimé? Bah peut-être parce que c'est pas très respectueux, quoi. Hein? Utiliser tous les sujets pour ça, c'est la tactique. On est au courant, ouais. Donc, voilà. Arrêtez d'instrumentaliser les sujets, quoi. Oui, je sais, il y a un mec avec une perceuse dans la cour. Si ça fait trop de bruit, je vais aller le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe en Italie de si bien? Donc, comme ce monsieur dont on vient de parler, il y a quelques années, en 2024, 359 000 élèves en situation de handicap étaient inscrits dans les écoles italiennes. Soit près de 5% du nombre total d'inscrits. Un chiffre en hausse de 25% en 5 ans, comme le précise l'Institut national des statistiques italien, À leur côté, 246 000 enseignants de soutien les accompagnent dans leur parcours. C'est beaucoup, hein. Font. Donc, manifestement, on ne parle pas d'AESH. Là, on parle d'enseignants de soutien. Peut-être que le statut est plus sympa. Les accompagnent dans leur parcours, font le lien avec les professeurs et les autres élèves pour leur permettre de suivre une scolarité classique. Contrairement à la France, tous les élèves en situation de handicap sont pris en charge, avec une moyenne de 1,5 élèves pour un enseignant de soutien. Donc c'est possible. Donc ce à quoi aspirent certains en France, l'Italie l'a fait, si je comprends bien l'article. Donc c'est possible. Ce modèle d'école inclusive à l'italienne est le fruit d'un long travail commencé il y a plus de 50 ans. Juste pour répondre à certains dans le chat, enfin je voyais une personne qui disait: Ah oui, c'est grâce à Meloni. Bon. Ce modèle d'école inclusive à l'italienne est le fruit d'un long travail commencé il y a plus de 50 ans. Je ne sais pas quel âge avait Meloni il y a 50 ans, mais. Donc c'est un travail qui date d'il y a très longtemps. Comme l'explique Umberto Zona, qui est professeur d'enseignement et de pédagogie spécialisé à l'université de Rome 3. Dans les années 70, l'Italie met fin à ce qu'ils appellent alors les ghettos, comprendre les écoles différenciées. Une loi de 77 introduit la figure de 77, la figure de l'enseignant de soutien, vous voyez, c'est pas l'AESH, pour permettre l'intégration des élèves en situation de handicap dans les écoles. C'est une période de grands changements culturels en Italie, donc la fin des années 70, on ferme aussi les asiles psychiatriques. Analyse l'universitaire, on passe d'un paradigme qui consistait à invisibiliser ou exclure les personnes différentes à un choix d'intégration. Donc, fin des années 70, il se passe un truc. Le fou du bus. T'as la même personne qui dit bravo à Mélanie! Putain, mais l'alcool, c'est trop tôt là. 11h27. Remarque, à moins que tu sois en décalage horaire et du coup, c'est l'heure de l'apéro. Ça n'excuse pas, hein. Putain, le niveau des arguments, quoi. On vient littéralement d'expliquer que cette politique a commencé il y a 50 ans et t'as quand même le fou du bus qui dit bravo Mélanie! Wow. Il y a Cyril qui dit le pire qu'ils sont à jeun. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, ça, c'est l'alcool. Ça ne peut être que l'alcool. Je suis désolé. Nouvelle impulsion en 92, avec un texte qui vise à améliorer l'accueil des élèves handicapés dans les classes ordinaires. On passe de l'intégration, qui concerne uniquement la personne handicapée à intégrer dans la classe, à l'inclusion, qui consiste à travailler sur l'environnement d'apprentissage afin de permettre la réussite scolaire pour tous. C'est vachement beau, quoi. Il y a Piwis qui me dit en Espagne aussi, c'est très développé, manque de moyens, mais l'inclusion est passée en 2000, plus ou moins, je crois m'en rappeler. On passe de l'intégration. Bon, ça, je suis en train de redire la même phrase. Ça, c'est l'âge, désolé. Ce système repose sur une figure essentielle, l'enseignant de soutien. C'est vachement intéressant. Oh, tu nous casses les couilles, Knack Forever. Tiens. Putain, va prendre une tisane. À tout à l'heure. Fou, ça. Avec un peu de chance, on aura fini sur. C'est quoi le sujet suivant? Le coût des maladies mentales. Le coût des maladies mentales. Vous allez voir qu'il va revenir. Je lui ai mis un petit théo. Et d'ailleurs, bravo Mélanie! Après, on va parler du Soudan dans l'horreur. Et il va nous dire bravo Mélanie! Après, il y aura un musulman maire de New York. Et là, il nous dira bravo Mélanie! Après, il y aura la Chine et la natalité. Et il va revenir et il va dire bravo Mélanie! Ah oh, putain, l'enfer! Putain, le niveau, le. Le niveau des arguments, quoi. Il va revenir tout à l'heure, vous verrez. Donc, penchons-nous sur ce spécificité du système italien qui a l'air passionnante. Donc, c'est l'enseignant de soutien. Recruté en CDI ou en CDD, au même salaire. Vous voyez la différence avec l'AESH? Recruté en CDI ou en CDD, au même salaire qu'un professeur classique, l'enseignant de soutien formé à tous les types de déficiences, mais bordel, c'est le paradis! Fait le lien entre l'élève en situation de handicap, le professeur et le reste de la classe. Donc c'est possible. Donc c'est possible. On adapte les exercices en fonction des élèves, de leur capacité de concentration, des besoins de chacun pour leur permettre de suivre le cours. Détaille Simone Compagnie, qui est enseignante de soutien dans une école primaire de la capitale, qui souligne l'étroite importante collaboration avec les parents et les professeurs pour mener à bien son travail. Donc ça existe. Donc ça existe. Les autorités font face cependant à des difficultés de recrutement. Il y a beaucoup de contrats précaires parmi les enseignants de soutien, donc c'est pas non plus parfait, quoi. Ils changent d'une année sur l'autre, parfois en cours d'année, ce qui casse complètement le suivi des enfants. Oui, même en Italie, c'est pas parfait, même si ça a l'air bien mieux que chez nous, hein. C'est une chercheuse sur le sujet qui le dit. Dans un système largement décentralisé, elle pointe aussi les inégalités entre les établissements, que ce soit en termes d'équipement ou de matériel. Hein? La chercheuse s'inquiète d'une éventuelle inflexion de la politique suivie. On n'aurait pas dû Théo, notre ami, là, parce qu'il y avait il y avait un truc pour lui. La chercheuse s'inquiète d'une éventuelle inflexion de la politique suivie avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie. Qu'est-ce qu'on rigole ce matin? Le principe d'inclusion tend à être mis de côté au profit d'un concept abstrait de mérite. Ah bah pas bravo Mélanie, hein. Bon bah on voit que ça n'est pas parfait non plus en Italie, mais que manifestement ça a l'air mieux que chez nous. Donc c'est possible. Donc c'est une question de volonté. Volonté politique et volonté sociétale. Parce que les politiques ne font rien s'ils ne sentent pas que il y a les électeurs derrière. Et oui, et oui. Et donc c'est aussi à nous de choisir des représentants politiques qui se soucient de ce sujet. Voilà. Comme en 2027. C'est pas mal, hein? C'est intéressant, hein? Moi j'aime bien le journal La Croix parce que c'est un journal qui met des sujets comme ça en avant, qui ne sont pas les sujets des autres et qui c'est, je trouve, bien traité, quoi. Et bravo à tous ceux dans le chat qui sont impliqués sur ces sujets. Voilà. Que ce soit les parents, que ce soit les AESH, que ce soit les enseignants, que ce soit les gens qui travaillent dans les assos. J'ai vu plein de commentaires. Je vous dis un grand bravo. Merci Popki. Merci Toweli. Merci encore Hugo, j'avais pas vu. Merci Arsenal. Ben, bravo à vous. J'ai reçu une. Oui, c'est mon WhatsApp qui est allumé. C'est mon WhatsApp qui est allumé. Ok. Tiens, je lis les urgences. Je lis les urgences. Ah super. Ah super. Il y a Joe qui va bosser sur l'histoire des du sommaire. Ah, c'est top. Merci ADN. Est-ce que c'est pas Bourdieu qui disait qu'on pouvait juger une société à sa façon de traiter ses prisonniers et ses malades, quelque chose comme ça? Je sais pas si c'est Bourdieu, mais c'est très juste. Mais c'est très juste. Salut Benjo. Ah, c'est chez moi, hein, désolé. Vous savez qui c'est? Raska? Un créateur de contenu qui s'appelle Raska? C'est qui Raska? Vous connaissez Raska? Créateur de contenu? Je crois que c'est plutôt un youtubeur. C'est un youtubeur, je crois. Plus. C'est un pote de Joyka. Vidéaste web, cadreur, monteur français, spécialisé dans la vulgarisation, le divertissement autour de la culture hip-hop, notamment du rap, c'est hyper intéressant. Oui, il est très drôle, super type. Sympa son contenu. Ok. Bon, bah, vous validez, je valide aussi. Ok. Simon Bodin, de son vrai nom. Ok. Ok, très bien. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Ok. Ok. Sujet suivant? Voilà. Mais merci d'être avec moi dans la matinée. Étienne, ce matin, sur Twitch, pas sur TikTok, on a un petit problème de caméra. Mais en revanche, en replay Twitch, en replay YouTube et également en podcast audio. Et merci d'être aussi nombreux à nous écouter en podcast audio, point d'exclamation. Podcast dans le chat et vous avez toutes les infos puisqu'on est sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast, tout ça, quoi. 1h53, merci MG. Je vous mets le TC, on passe au suivant, au sujet suivant. 1h53. Le coût des maladies mentales. Ça, c'est vachement intéressant, ça. Je me rappelle pas avoir lu un truc là-dessus. Ok, let's go. L'écrasant fardeau économique de nos maladies mentales. Alors ça, c'est un titre que j'ai vu dans les Échos ce matin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, le coût des maladies mentales? On est en train de nous dire que ça coûte trop cher. Bah, c'est un peu l'inverse. Les maladies mentales coûtent 163 milliards d'euros par an à la France. 163 milliards, selon une étude de 2023. Pourtant, la recherche en psychiatrie reste sous-financée, freinant les innovations. Voilà. Le constat de l'article, d'après ce que je comprends, c'est pas tant que ça nous coûte trop cher, c'est qu'on ne met pas les moyens pour que les gens souffrent moins en France, ce qui pourrait diminuer au global ce coût. À l'heure où notre pays croule sous le déficit et la dette, où les parlementaires s'écharpent sur la taxe Zucman un jour et la suspension de la réforme des retraites le lendemain, voilà un chiffre que nos premiers ministres successifs seraient bien avisés de prendre en compte, 163 milliards d'euros. C'est ce que, selon une étude parue en 2023, coûterait actuellement à la France chaque année l'état déplorable sur le plan de sa santé mentale de sa population. Vous avez bien lu, 163 milliards d'euros, presque autant que les budgets de l'éducation, de la défense et de l'écologie réunis. Passé trop inaperçu dans le tintamarre politico-médiatique ambiant, ce chiffre, bien entendu, mérite quelques explications. Il englobe, mais déborde très largement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre? Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre? Les dépenses de santé mentale à la charge de l'assurance maladie. Hein, dans le plan de, dans le projet de loi de finances de la Sécu en 2026, si on regroupe les maladies psychiatriques et les traitements chroniques par psychotropes, anxiolytiques, hypnotiques, la santé mentale représente, les chiffres sont impressionnants, près de 28 milliards d'euros, près de 14% des dépenses totales de l'assurance maladie. Juste derrière les maladies cardiovasculaires. Juste devant les cancers. Le coût uniquement pour l'assurance maladie du soin des maladies mentales, c'est plus que le coût des cancers. Santé mentale, cardiovasculaire, cancer, le trio de tête ne change pas depuis plusieurs années, seul varie d'une année sur l'autre les positions respectives de chacune des trois familles de maladies dans ce trio, dit une économiste de la santé. Pour aboutir à ce chiffre global de 163 milliards d'euros, les auteurs ont agrégé les coûts directs et indirects des maladies mentales, hein, donc directs et indirects. L'étude de 2023 porte sur les données de 2019, un an avant la pandémie de Covid-19, cette pandémie qui justement a aggravé les choses, vous le savez, qui a laissé tant de séquelles sur nos cerveaux et nos psychismes. Une étude de la même manière avait été réalisée en 2012, c'était la première, donc je comprends que c'est là, c'est la deuxième. Sur les données de 2007, et à l'époque, on était arrivé à un chiffre de 109 milliards d'euros. Donc ce coût, il augmente. Le fardeau économique de notre mauvaise santé mentale se serait donc alourdi de 50% d'une décennie à l'autre, ce que ne suffit pas à expliquer les différences méthodologiques entre les deux études. Donc on fait ce constat, que c'est un certain coût, et que bien qu'arrivant très régulièrement en tête des postes de dépenses de l'assurance maladie, on l'a vu, et pesant d'un tel poids sur l'économie de la nation, parce que c'est un journal économique qui nous parle, donc qui s'intéresse à l'économie, sans parler du bien-être de ses habitants, bien sûr, les maladies psychiatriques sont pourtant les parents pauvres de la recherche médicale, biomédicale, publique et privée. Voilà. En gros, il y a beaucoup moins d'argent investi sur la recherche sur les maladies mentales que sur les cancers, par exemple, ou les maladies cardiovasculaires. La psychiatrie ne capte en France qu'entre 2 et 4% des subsides, insuffisant au regard du fardeau social et économique des maladies mentales, et significativement plus faible que les pourcentages observés dans d'autres pays développés, 16% aux États-Unis, 10% en Finlande, 7% au Royaume-Uni, 6% en Espagne. Côté privé, le délaissement est encore plus criant. Voilà. Ah, il était revenu? Ah, oh, mais je l'ai raté. Qu'est-ce qu'il avait dit, notre ami Knacky, là? Attendez, je me fais un petit plaisir. Il est revenu sur Mélanie ou pas? Il a été banni. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Je me fais un petit plaisir. 47 messages? Ah, ben, il n'est pas là depuis longtemps. Ah oui. Il y a eu le pétage de plomb, là. Les modos, ils ont craqué. Ah oui, à Sugar, t'y allais comme ça direct, toi. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, parce que. Oui, bah oui, Sugar, t'as craqué là. Il est revenu pour nous expliquer qu'en fait l'explosion des maladies mentales, c'était à cause de la sécurité en France. C'est la détérioration de la sécurité en France qui provoque l'explosion des maladies mentales. On était à deux doigts de revenir encore sur l'extrême droite là. Hein? Hein? Bon, disons que d'après ce que je comprends, c'est un ban pour son œuvre. Désolé, Knacky Balls, là, je peux commencer. C'est un ban pour son œuvre. C'est 47 messages. C'était pas spécifiquement celui-ci. Je fais un peu le service après-vente du ban. Voilà. Bon, ne vous inquiétez pas pour lui, il reviendra avec un autre pseudo. Je suis pas trop inquiet. Peut-être que d'ici même la fin de ce stream. Pour ceux qui sont en train de le défendre, ne vous inquiétez pas, il revient dans pas longtemps. Il revient dans pas longtemps. Voilà, on voit que du côté du privé, du côté des labos aussi, ça n'investit pas non plus sur les maladies mentales, quoi. C'est d'ailleurs ce qui rend la situation actuelle si contradictoire, écrivent les Échos, et notre impéritie, joli mot, collective face à la dégradation de la santé mentale du plus grand nombre, si inacceptable. Grâce à l'effet d'entraînement des neurosciences et malgré des budgets éthiques, la recherche en psychiatrie progresse et de très prometteuses pistes se sont ouvertes. La psychiatrie en 2025 n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était au début du siècle. Hein. On sait désormais, par exemple, que pas moins de 40% des patients souffrant de maladies mentales, qu'elles soient de la schizophrénie, la dépression résistante, présentent une inflammation chronique à bas bruit presque jamais diagnostiquée. Cette inflammation chronique peut être à son tour source de diverses complications, comme les anomalies de l'axe cerveau-intestin ou le développement d'un syndrome métabolique. Voilà. Tour de taille trop élevé, dérèglement tel que l'hyperglycémie, insuffisance de bon cholestérol, pression artérielle très forte, trop forte. Présent chez 10% de la population générale, le syndrome métabolique alimenté par les anomalies des mitochondries concerne entre 20 et 40% des patients en santé mentale. On est en train d'explorer des liens entre santé mentale et physique. Et ça, c'est assez nouveau, quoi. Voilà. À cause de ce syndrome et d'autres anomalies métaboliques, l'espérance de vie de ces personnes se voit réduite de 10 à 20 ans par rapport à la population générale. On dit souvent, dit une chercheuse, que le suicide est la première cause de mortalité chez les patients en psychiatrie, mais c'est faux, dit-elle. La première cause de mortalité, ce sont les comorbidités somatiques, en partie cardiovasculaires, associées à leur maladie psychiatrique. Cette dimension inflammatoire des maladies mentales est si importante, elle renouvelle si puissamment notre regard sur ce qu'on tenait jadis pour des maladies de l'âme ou de l'esprit, que l'immunopsychiatrie et la psychiatrie métabolique sont actuellement parmi les champs les plus féconds, les plus travaillés dans la recherche en psychiatrie. Hélas, si les publications se succèdent, donc il y a des recherches, beaucoup de recherches, ouais, les traitements, eux, ne suivent pas. Malgré les progrès considérables des neurosciences, leur impact sur la prise en charge des patients est limité. Les traitements psychiatriques actuels sont largement non spécifiques. Le développement des médicaments est freiné par des catégories diagnostiques obsolètes et trop inclusives. Cette même chercheuse déplore qu'il y a une méconnaissance tragique en France de ce que sont les maladies mentales. La France aura attendu 2025 pour faire de la santé mentale, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, écrit La Croix, qui se montre sensible à ce sujet, une grande cause nationale. On voit qu'on est au tout début de cette réflexion. Je vous lis. Peut-on mesurer l'impact du harcèlement sur Internet et des réseaux sur l'évolution des maladies mentales? Vaste sujet. J'en trouve pas un. Vraie bonne question. Oh, ça va avec sa perceuse, lui. Je vais fermer la perceuse là. Je vais aller voir le gars qui fait de la perceuse là. Bougez pas. Voilà. Je peux vous dire que ça va moins percer là. Je peux vous dire que ça va moins percer. Ça va, c'est bon. Ça va. Attends, il travaille, moi aussi je travaille. Voilà. Non, j'ai juste fermé la fenêtre. Donc oui, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, vrai sujet. Après, moi, je suis pas sur les réseaux, hein. Donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne suis pas sur les réseaux. Je ne m'ex voilà. X, Twitter, Insta, TikTok, tout ça. Internet. Ça marchera jamais, ce truc-là. Du coup, j'y crois pas. Il a le droit de bosser avec sa perceuse, le pauvre. Oui, bah c'est pour ça que j'ai fermé la fenêtre. Hein. Oui, les autoroutes de l'information, tout ça, je n'y crois pas trop. Le web, oui, mais oui, le web. Le World Wide Web, là. Je crois pas, moi, toutes ces nouveautés, là. On a vu le sang sur ta manche. C'est faux. J'ai mis un sweat blanc ce matin. Regardez, je ne suis que paix, je ne suis qu'amour. Non mais vrai, vrai sujet par contre, l'impact des réseaux sur la santé mentale. Vrai sujet, vrai sujet. Vrai sujet, vrai sujet. Merci si tu m'as pour ton message, c'est intéressant. Ok. Waouh, le Soudan dans l'horreur. Alors ça, c'est ultra gore, ce que j'ai lu ce matin, là. Waouh. 2h06. Alors ça, j'ai vu plusieurs articles ce matin, mais j'ai trouvé que celui des Échos était clair et atroce. Et essayer d'expliquer un petit peu les raisons de ce qui se passe au Soudan. Vous connaissiez, vous? Le Soudan, c'est... La guerre civile au Soudan enfonce le pays dans l'horreur. C'est... Alors, il y a des papiers dans plein de journaux ce matin. J'ai pris celui des Échos. Les paramilitaires des forces de soutien rapide, on va voir de qui il s'agit, ont commis des massacres. Des massacres. Dans la ville d'El Fasher. Mais la communauté internationale semble impuissante. Prêt. Alors, les âmes les plus sensibles, désolé, hein, n'hésitez pas à vous éloigner. Près de 450 femmes et enfants massacrés de sang-froid dans une maternité. Près de 450 femmes et enfants massacrés de sang-froid dans une maternité. Et peut-être jusqu'à 7000 civils tués dans cette ville du Soudan. D'El Fasher. La guerre civile au Soudan, déclenchée en avril 2023, entre les forces loyalistes et les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, a franchi encore un palier dans l'horreur ces derniers jours. Nombre de témoignages et de vidéos vérifiées par l'ONG Human Rights Watch montrent des civils de tout âge, je suis désolé, hein, exécutés par balles ou pendaisons, fuyant pillage, torture, massacre et viol, près de 36 000 habitants de la ville conquise par les paramilitaires des FSR, la dernière des cinq préfectures du Darfour qui était encore contrôlée par l'armée régulière, ont fui à pied la semaine dernière. Les FSR qui ont annoncé vendredi, ah, je connais pas ce numéro, l'arrestation de quelques militaires auteurs des exactions sont désormais maîtres de l'ensemble du Darfour, vaste région de l'ouest du pays. Alors le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit jeudi gravement préoccupé par cette escalade, mais la communauté internationale semble impuissante et relativement indifférente, comme en témoigne l'absence de mobilisation militante ou médiatique en Occident, voire en Afrique, contre cette guerre qui a fait des centaines de milliers de morts en 30 mois. Personne n'envisage évidemment d'envoyer une force d'interposition dans un pays immense et désertique, infesté de combattants incontrôlés armés de drones. Quant aux leviers économiques, ils sont vraisemblablement limités à l'encontre de militaires sans empire financier. Ce conflit entre deux généraux jadis alliés, Mohamed Daglo, surnommé Emetti, à la tête donc de ces FSR, voilà, et Abdel Fattah al-Burhan, qui est chef d'état-major, constitue la quatrième guerre civile d'un Soudan qui est toujours travaillé depuis toujours entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, après celle de 55-72, 83-2005, 2003-2020. C'est un pays qui est en guerre civile quasiment permanente, quoi. En 2 ans, 10 millions de personnes ont fui les combats, notamment à Khartoum, la capitale, et le pays vit une des pires crises humanitaires de la planète après le Yémen et Gaza. Près de 40% des 51 millions de Soudanais vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. Les dernières violences rappellent ce qui s'est passé au début des années 2000 au Darfour, marqué par les atrocités commises par les milices arabes Janjaweed, dont sont issus, comme par hasard, les FSR. D'après les rapports de l'ONU, quelqu'un me demandait, mais qui finance ça? Salut Max, Mélanie. Qui finance, hein, pour financer des conflits comme ça, pour pouvoir acheter des armes, il y a du financement. D'après des rapports de l'ONU, les FSR sont soumis par les Émirats arabes unis, qui comptent sur eux pour éviter un retour au pouvoir à Khartoum des islamistes issus du régime d'Omar al-Bashir. Ce dernier, renversé par une révolte populaire en 2019, avait échoué à la suite d'un coup d'état militaire à embrayer sur une transition économique. Les FSR sont aussi soutenus à un degré moindre et pour des raisons diverses par le Kenya, par l'Éthiopie, par l'Ouganda et par le Tchad. Le régime militaire bénéficie de l'appui de l'Égypte, donc là, du côté des loyalistes, si je comprends bien, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de la Russie et de la Turquie. Tous ces pays nient leur implication. Transition démocratique, pardon, ouais. Works. Un chercheur qui s'appelle Roland Marshall souligne que le conflit se radicalise encore, avec un revers pour les loyalistes, mais sur le plan international, ces massacres peuvent paradoxalement conforter la volonté de médiation des États-Unis, qui vont activer tous leurs leviers diplomatiques pour obtenir un arrêt des combats, même si cela sera difficile. Pardon, c'est WhatsApp, je regarde s'il y a des urgences. Trop bien. Vous savez que mardi soir, la commune, hein. Attends, je vous en parle après parce que là, j'allais vous parler d'une chose légère et on est sur un sujet super lourd. Attends, Amy. Voilà. Excusez-moi, je suis à vous. Réservez votre soirée de demain à 20h. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je vous en parle dans un instant. Si Washington, quel est le rôle des États-Unis dans tout ça? Si Washington reconnaît la légitimité du régime à Khartoum, sa ligne rouge est un retour au pouvoir des islamistes, ce qui correspond aussi aux priorités des Émirats, dont l'influence dans la région agace toutefois au plus haut point l'Arabie Saoudite. Merci pour ce raid de fou. Il y a l'ami Bruno Universimu qui nous raid à l'instant. Merci mon ami. Merci NTHN, NVL également. Merci Poupki. Merci pour le raid, c'est gentil. Les trois grandes puissances impliquées dans la région, États-Unis, Russie et Chine, n'ont pas du tout intérêt à s'impliquer directement, dit un spécialiste de la région qui s'appelle Marc Lavergne, ami qui nous rejoignait avec le raid. Là, on est en train de parler de ce qui se passe au Darfour, qui est monstrueux. Voilà. Le massacre au Soudan. Voilà. Donc, voilà. Le chercheur nous dit que les trois grandes puissances impliquées dans la région, États-Unis, Russie et Chine, évitent de s'impliquer pour ne pas se fâcher avec des puissances régionales antagonistes dans ce dossier. Éthiopie contre Égypte, Émirats arabes unis contre, vous l'avez compris, Arabie saoudite. Les pourparlers en vue d'une trêve menée par un groupe réunissant les États-Unis, l'Égypte, les Émirats arabes unis et Arabie saoudite sont dans l'impasse depuis des mois. Voilà ce qui se passe. Merci à cet article des Échos, qui est assez court, mais qui nous donne des clés de compréhension. Le truc est assez bien expliqué d'un conflit éminemment complexe. Merci à Andrononame, merci à toi. Je vous lis. Merci Bruno pour ton message. Le peuple qui en paie le prix fort encore et encore. Oui. Ouais. De la folie des assoiffés de pouvoir. Oui, tu as raison. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est fou, hein. Bon, on va suivre ça. Merci qui Corse. C'est fou. Bon, en tout cas, merci les Échos. C'est un article dans les Échos. Il y a plusieurs papiers ce matin, quasiment tous les journaux en parlent. Mais cet article des Échos, je le trouve assez clair. Voilà. Bon, on rajoute ça, on rajoute ce sujet à la liste des sujets dont on suit l'actualité au quotidien. Allez, je vous emmène à New York pour l'élection du maire de New York. Hein, c'est ce jeune homme, il a 34 ans, qui est un démocrate, qui pourrait être le prochain maire de New York. Et certains y voient comme un espoir dans la lutte contre le trumpisme aux États-Unis. 2h16. Merci, MMG. C'est bien quand j'ai pas TikTok, j'ai juste un sommaire à actualiser. Moulbit, un jour je t'emmènerai à New York avec moi. Ouais, ça c'est téléphone ça, je crois. Est-ce que je voulais que je vous montre un visuel en avant-première? Est-ce que vous voulez que je vous montre un visuel en avant-première que je viens de recevoir à l'instant là pour un truc mardi soir, une petite surprise. Vous voulez? Non. Ok. Vous me mettez là. Hop, parcourir. Allez, un petit leak. Je crois que j'en ai parlé hier soir pendant le simplet. Ok, voilà. Tadam! Mardi soir, nous, collectivement, communauté de Samuel Etienne, nous allons expliquer Valorant à Emilien. Oui, mesdames et messieurs, est-ce que vous vous souvenez de ce stream assez sympa avec, comment il s'appelle, le grand là? Voilà. Le grand là, le grand youtubeur là, ils sont deux, c'est le grand, celui qui a le moins de cheveux, Carlito. Est-ce que vous vous rappelez de ce stream très sympa avec la commu où on a montré Valorant à Carlito? Ouais. Eh bien là, on va montrer Valo à Emilien. Il a vite fait lancé le jeu, Mais là, on va lui montrer les arcanes, les subtilités, la passion du jeu, voilà. On va faire une petite five stack, hein, avec les amis qui seront là, hein. En plus, le mec, c'est quand même le mec le plus gentil du monde. Et donc, voilà, petit feat avec Emilien. Cyril, tu vas te prendre un missile dans la tête, quoi. Il ferait pas mieux d'aller voir un vrai joueur de Valorant pour découvrir ce jeu? Tu parles à un silver, là. Tu parles à un silver. Hein? Tu parles à un silver, là. C'est dingue, ça. Faire foutre à un moment. Donc voilà, ça c'est mardi. Depuis quand t'es silver? Ah mais depuis un petit moment. Ah non, je suis silver, je suis silver. Point d'exclamation, vous faites point d'exclamation, comment on dit là, Hello ou rank dans le chat et vous allez voir. Non, je ne suis pas trop vieux, Bruno. Je suis à mon prime. Voilà, argent. Argent 1, plus 10. Voilà. La régalade. Bon, très, très content de recevoir à nouveau l'ami Emilien. On ne se quitte plus, on ne se quitte plus. Il y a un monde d'ailleurs. Là, je cut la revue de presse tout à l'heure. Je réponds à mes mails de taf urgent. Et après, je lance un petit stream Valo. Je ferais bien un petit solo queue que j'ai pas fait depuis longtemps sur mon compte principal, histoire d'aller m'engueuler avec des Turcs, des Allemands, des Anglais, des Américains, des... Voilà. Peut-être faire ça cet après-midi. Ce soir, j'ai un tournage de vidéo YouTube chez un célèbre et sympathique YouTuber à minuit. Dans quel état je vais être demain matin, quoi. Après, faut que je gère mon TikTok aussi. Faut que je gère mon TikTok aussi. Bon. Allons à New York. Qu'est-ce qui se passe? Élection à New York. Zoran Mamdani. Antidote. Anti-Trump. Démocrate. Socialiste. Proche des idées de Bernie Sanders. Musulman. Le jeune élu du Queens. Je crois qu'il a 34 ans. Favori de l'élection municipale de mardi. C'est demain. Représente tout ce que les Trumpistes détestent. Et suscite l'espoir d'un renouveau politique à gauche. Il y a Nobiwan qui dit beau gosse, merci. Bah après avec c'est mon avec, souvent je mets les lunettes le matin, mais c'est sympa. C'est vrai que au niveau des cheveux en ce moment c'est pas mal. Petite coupe là, le teint est clair, le teint est clair. Ouais. Tu parlais de ah oui ah ok pardon ah zut ok, autant pour moi. Ok. Alors, pourquoi ça hype un peu Libération, cette histoire? On va lire l'édito de Lorraine Provost, on va comprendre, parce qu'ils font quand même leur une et leur gros dossier là-dessus, quoi. New York, ça n'est pas vraiment les États-Unis, écrit Lorraine Provost, qui a écrit d'excellents éditos dans Libération. La mégalopole qui s'apprête à élire son maire ce mardi est unique à bien des égards. New York, c'est pas les États-Unis, ça on le sait, ça. Notamment pour sa ferveur démocrate ancrée depuis près d'un siècle à quelques exceptions près, alors que les New-Yorkais soient sur le point d'élire un démocrate n'étonnera personne, mais que le grand favori s'appelle Zoran Mamdani. Mamdani, pardon d'ailleurs. Voilà autre chose. Dans l'Amérique de Trump, et à l'heure du nationalisme blanc évangélique, voilà, seul New York peut élire un candidat comme lui. Il est l'antonyme du magnat de l'immobilier, né dans le Queens. D'ailleurs, ce dernier exècre. Celui qui veut régner sur sa ville, un progressiste musulman de 34 ans, fils d'intellectuel de la diaspora indienne naturalisé américain en 2018, il expulserait volontiers ce socialiste démocrate à l'ascension fulgurante. Il faut dire que 2 semaines après que 7 millions d'Américains ont marché contre Trump et sont en quête d'une nouvelle figure pour lui résister, les États-Unis tiennent un profil intéressant. Né en Ouganda, ah oui, j'allais dire, bah c'est bizarre, normalement, si t'es pas né sur le sol américain, tu peux pas te présenter à la présidentielle. Oui, mais manifestement pas au municipal. Voilà. Né en Ouganda et non pas sur le sol américain, Zoran Mamdani ne pourra jamais briguer la Maison Blanche. Pour autant, il peut avoir un destin national. Dans la tourmente après la défaite de Kamala Harris, le Parti démocrate manque cruellement de leadership, tu m'étonnes. Sensation des réseaux sociaux, idole de la Gen Z, Mamdani pourrait être va-t-il être la cure de jouvence dont a besoin ce parti ce parti grisonnant accusé de gérontocratie. Enfin, c'est le parti démocrate. Qui est un petit peu à la rue. Hein. Qui est un petit peu à la rue. Voilà. Tu peux même être gouverneur quand tu n'es pas né aux États-Unis qu'on fait Schwarzenegger. Donc ça veut dire que si je rate 2027 en France, c'est-à-dire que je peux être élu d'une grande ville aux États-Unis et gouverneur de Californie, par exemple. California Dream, California Dream. Ok, 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 je me le mets dans un coin de ma tête. Ok. Alors quelqu'un me dit, j'ai pas compris, il venait d'Inde, maintenant de l'Ouganda, t'as raison, moi non plus j'ai pas compris. Fils d'intellectuel de la diaspora indienne. Bah oui, et alors ? Bah ses parents sont indiens, il est né en Ouganda. Et alors ? What's the problem ? What's the... Alors ? Hein ? Eh oui. Eh oui. Donc pas de souci. Tes parents peuvent être d'un pays et tu es dans un autre. Hein? Alors question, est-ce que ce monsieur pourrait être la cure de jouvence dont a besoin le Parti démocrate ? Son socialisme serait-il la solution aux années perdues à chercher un nouvel Obama capable de réconcilier les modérés et les progressistes. Sa dynamique du meilleur effet après les années Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Avec ses mesures contre la vie chère, gel du prix des loyers, crèches publiques, bus gratuits, une campagne impressionnante sur le terrain et les bons codes pour mobiliser la jeunesse des abusés, Mamdani est en passe de devenir le premier maire musulman de New York et le plus jeune depuis 1917. La ville, elle, le laboratoire d'une nouvelle ère possible pour le Parti démocrate ? Point d'interrogation. La suite, eh bien, il lui faudra tenir bon sous les coups de l'opposition, tenir ses promesses face au réalisme budgétaire. Puis, comme le dit la chanson de Sinatra, si tu réussis à New York, tu réussiras partout. Intéressant. Voilà. Donc là, on a l'édito de Lorraine Prouveau qui résume un petit peu toute l'histoire. Puis on va lire un petit peu ce dossier, parce qu'il y a un gros dossier dans Libération. Alors, je vous lire un petit peu en diagonale pour vous donner les infos essentielles, quoi. Il y a Pierre Factor qui me précise qu'il y a aussi Omar Fateh à Minneapolis qui a la même idéologie, le même corpus idéologique. Il y a Ploum 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 qui écrit une autre vérité. Qui écrit Silver sur Valorant, c'est comme un diamant sur n'importe quel autre jeu. Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça ? Alors, Libé parle du sourire, le candidat très souriant, de ses campagnes de vidéos drôles et virales. Voilà. Je vous passe les détails, je vais sur l'essentiel. Voilà, ses idées pour New York, geler une partie des loyers, rendre les bus gratuits et rapides, mettre en place une garde d'enfants universelle, construire des épiceries publiques à prix réduit. Ça, c'est marrant, ça. Quatre mesures fortes qui font mouche dans l'une des villes les plus chères du monde. Pas mal. Geler une partie des loyers, rendre les bus gratuits et rapides, mettre en place une garde d'enfants universelle, construire des épiceries publiques à prix réduit. C'est ainsi qu'est né le phénomène Mamdani. 34 ans, c'est un enfant. Hein. Élu socialiste démocratique du Queens, naturalisé américain en 2018. Ah, mais naturalisation super récente, en fait. Qui pourrait devenir mardi le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis, presque 25 ans après le 11 septembre. Dans le temple du capitalisme mondial, cela ressemble à une révolution. Voilà. Vous êtes quelques-uns tout à l'heure à dire, mais pourquoi vous dites musulman ? Pourquoi les journalistes disent musulman ? Eh bien, notamment pour la raison qui vient d'être évoquée ici. D'autant plus incroyable que le trentenaire n'était crédité que de 1% des intentions de vote l'an passé, lorsqu'il a démarré sa campagne pour la primaire démocrate. 1% des intentions de vote. On va faire comme lui ici. On va faire comme lui. Vous savez que nous aussi, on va être crédité de ce genre de... Au début, on va avoir du 1% comme ça. Hein, pour 2027. 1%, 2%, 3%, 5%. Et puis ça va grimper. 10, 15. Voilà, ça va commencer à flipper. On va sortir des dossiers. Hein, les opposants vont sortir des dossiers, les médias vont sortir une accusatrice pour aller chercher dans les pans sombres de mon histoire personnelle pour essayer de dégoûter les Français de voter pour moi, mais ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Il a finalement gagné haut la main la campagne, fort, quelqu'un me disait, mais comment il est passé de 1% à gagner? Fort d'une utilisation fine des réseaux sociaux et d'une stratégie politique résolument tournée vers le terrain. Voilà. Et le voici qui domine assez largement dans les intentions de vote des deux principaux concurrents, l'ancien gouverneur démocrate Andrew Cuomo, qui se présente sous la bannière indépendante après sa défaite à la primaire de juin. Il a perdu la primaire, mais il se présente quand même. Voilà. Et le républicain loufoque Curtis Sliwa, obsédé par l'insécurité, est toujours coiffé d'un béret rouge. Un an, presque jour pour jour après l'élection de Trump pour un second mandat, face à un parti démocrate moribond, l'éventuel succès de Zoran Mamdani serait aussi celui d'une promesse, celui de tenir tête au milliardaire républicain. M. Braconnier, fais-moi un petit point d'exclamation RDP. Dans le chat, revue de presse, RDP. Et tu as la réponse à ta question. Je pense que les gars comme lui, jeunes, plus progressistes, avec des positions nouvelles, c'est la solution pour résister, dit Nelly Purefoy. Lorsque Mamdani, qui passe de table en table, arrive enfin à son niveau pour lui serrer la main, elle lève un doigt menaçant. J'ai voté. Bon, bref, c'est les électeurs qui parlent, ça. Ok, d'accord. Ça, c'est du blabla pour faire un bel article. Nous, on va sur les infos essentielles, sinon on va y passer la journée. J'ai voté pour vous, attention, ne me décevez pas, hein. Ouais. RDP, ouais. Cyril, tu pouvais te passer cette blague. Donc, en juin, les électeurs ont fait un pari lors de la primaire, hein, le moment où on choisit le candidat, celui d'une gauche plus combative et plus populiste. Disciple du sénateur du Vermont Bernie Sanders, pour lequel il a milité en 2016, Zoran Mamdani s'est mu en parangon de l'alternative de la vieille garde centriste du parti, de plus en plus conspuée par la jeunesse progressiste des États-Unis. Après, n'oublions pas que les États-Unis, c'est pas New York, hein. Elle loue à l'inverse l'engagement du candidat pour le sort des Palestiniens. C'est un des rares à avoir accusé Israël de génocide à Gaza. Il est un. Et surtout son souci des plus faibles, victime du coût effarant de la vie dans la mégalopole. Il a quelque chose d'authentique. De l'empathie, on sait qu'il a fait son programme, on sent qu'il a fait son programme en écoutant les problèmes des gens. Zoran Mamdani croit dur comme fer que les démocrates ont perdu leur assise électorale en se détournant des classes populaires. Il y a Lux Elray qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec AOC? Je la vois pas mal se faire dézinguer, mais j'ai pas suivi ce qu'elle a fait. Alors moi non plus, je t'avoue, je suis pas au courant. Cette élue démocrate là, dont tout le monde parlait à une époque. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle est passée un peu au second plan, je ne sais pas pourquoi. Moi, si quelqu'un a la réponse dans le chat, je suis sûr que vous l'avez, ça m'intéresse. Il a réussi à le démontrer en faisant voter à la primaire des individus, notamment des jeunes, qui boudaient jusqu'ici les urnes. Voilà. C'est Alexandria Ocasio-Cortez, c'est ça, ouais. Alors, Zoran Mamdani n'est pourtant pas le col bleu dont il entend porter la voix. Hein, c'est pas quelqu'un qui est issu des classes populaires. Né en Ouganda d'un père universitaire, qui s'appelle Mahmoud Mamdani, qui est désormais professeur à Columbia, et d'une mère indienne, Meera Nair, cinéaste renommée. Ben, je crois que je la connais, cette cinéaste. La réalisatrice Meera Nair, c'est la maman de ce monsieur? D'accord. Il est passé par certains des établissements scolaires les plus prestigieux de New York. Il n'impressionne pas tant par ce qu'il représente que par la clarté de son message. C'est pas tellement son parcours que son message qui séduit. Au lieu de tenir un discours abscons sur les valeurs comme l'a fait Kamala Harris par exemple, il assure que la défense de la démocratie face au rouleau compresseur trumpiste passe par la promesse d'une vie concrètement meilleure. Et ça se traduit dans son logiciel par une taxation par exemple plus importante des grandes fortunes new-yorkaises. Voilà. C'est pas mal, c'est intéressant. Pardon, je ne lis pas tout l'article qui est très très costaud, mais je vous en lis les passages les plus essentiels. Alors, Trump, par exemple, qualifie Zoran Mamdani de petit communiste. Le trentenaire représente absolument tout ce que Trump déteste, sous la loupe exagérée de New York, cette ville de contraste qui a créé ces deux hommes aux antipodes. Dépourvu d'ambition présidentielle pour n'être pas né aux États-Unis, Mamdani garde malgré tout le cap sur sa ville et appelle tous les opposants à Trump non pas à imiter ses mesures, mais à écouter les doléances de leurs électeurs. L'ancien président Obama, sans le soutenir publiquement, l'a félicité samedi pour son impressionnante campagne et propose d'être une caisse de résonance à l'échelle nationale de sa probable victoire. Ok. Et l'élection c'est demain, c'est ça? Et l'élection c'est demain? C'est ça? C'est demain le scrutin? Ok, d'accord. Donc ça veut dire que potentiellement demain soir, mercredi matin, on a le résultat, quoi. Ok. Ouais, demain mardi, ouais. Ok. C'est intéressant. Ok. C'est intéressant, pas tellement pour la suite du parcours de ce monsieur, puisqu'on sait qu'il ne peut pas être élu président, par exemple, même s'il peut faire plein d'autres choses, que du fait que ça peut changer la stratégie politique du Parti démocrate, quoi. Ok. Bon, allez, les amis. On va en Chine. Maintenant, voilà, pour un débat, enfin un débat, pour le débat que vous voulez, mais pour voir ce qui se passe au niveau de la démographie en Chine. Ils n'arrêtent pas de changer de cap. Un jour, faut pas faire d'enfants. Le lendemain, faut faire des enfants. Les pauvres Chinois. Ah, on est à 2h36. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ça? C'est la nouvelle politique de natalité en Chine. Faut faire des gosses. Faites des gosses. En Chine, la relance de la natalité à tout prix. Ok. Bon, on est sur un régime qui aime bien s'occuper de la vie privée des gens. Hein, et là, ils ont décidé que les Chinois devaient faire des enfants. Allocation, propagande, chantage, waouh! À Tianmen, les femmes sont fortement incitées à faire des enfants. L'imposant panneau de propagande représentant une famille nombreuse jouant sur fond de ciel bleu donne le ton. Des frères et des sœurs sont la plus grande richesse que des parents puissent offrir à leur enfant, ils disent les citoyens en se rendant au travail. Bon. Je dois halluciner, mais bizarrement, je pensais que la Chine, longtemps, ça a été un pays qui avait imposé la politique de l'enfant unique. Calme-toi, Sarah. Sarah, n'oublions pas que les modérateurs sont là pour modérer. Calmons-nous, Sarah. Le poste de modérateur, je le dis avec sympathie et amitié, n'est pas un poste qui permet de proclamer à l'envi, en non-stop, ses idées aux autres. Sarah, tu seras d'accord. Calmons-nous, apaisons-nous. Tu n'es pas là pour mettre de l'huile sur le feu et de balancer la petite allumette dedans. Tu es plutôt là pour apaiser les choses, Sarah. Sarah? Ok? Capiche? Je te vois, Sarah. Je te vois, Sarah. Je te vois. Je dis rien, mais je te vois. Donc voilà. Longtemps la politique de l'enfant unique, et puis ça a changé. La Chine s'est donc engagée dans une bataille pour réanimer sa démographie. Le combat s'annonce difficile, et Tianmen, pardon, ça n'a rien à voir, se voit en ligne de front. Petite ville du centre du pays, pourquoi on parle de cette ville d'ailleurs? 500 000 habitants. A fait du redressement, puisqu'en Chine, 500 000 habitants, c'est un village, hein, a fait du redressement de la natalité une priorité absolue et se targue d'être parvenu en 2024 à 7 217 naissances, soit 17% de hausse d'une année sur l'autre après 8 années consécutives de chute. Donc, ah voilà. Donc là-bas, ils font des enfants. Et donc, ils sont mis en avant dans le reste du pays, notamment par la presse officielle, parce qu'il y a une presse officielle en Chine, qui parle du modèle de Tiananmen. Ok. Dans cette ville du Hubei, comme dans tant d'autres, le centre commercial Wanda est le cœur de la vie de la cité, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, ça, c'est des petites histoires d'habitants. Ok, voilà. Donc là, histoire d'un couple, ils ont un enfant, ils sont très contents. Voilà. C'est une petite fille, et elle est adorable, voilà. Comme la plupart des parents en Chine, ils prévoient de s'arrêter là, un enfant. Elle est facile, nous ne pensons pas en faire un deuxième, dit le papa. Okay. Mais voilà 3 années consécutives, probablement 4 avec 2025, que la Chine voit sa population baisser. Voilà. Avec seulement un enfant par femme aujourd'hui, contre 2,5 en 90. Attends, ils ont un taux de fécondité de 1? Ah ouais, d'accord. Alors qu'il en faudrait 2,1 par femme pour assurer le maintien d'une population stable, le pays est tombé dans l'ultra faible fécondité selon la formule des Nations Unies. Il est sujet, la Chine, donc, à un vieillissement accéléré et à une chute de sa population active qui annonce des difficultés majeures du financement du grand âge et du dynamisme économique avant même que la population ait pu disposer des mêmes revenus que les pays riches de la région, au Japon, en Corée du Sud. Ça nous rappelle un autre débat, d'autres inquiétudes dans la plupart des pays du monde d'ailleurs, sur la chute de la démographie. Pour une population chinoise qui est devenue majoritairement urbaine, le coût de la vie et d'une bonne éducation, avec les cours du soir notamment, puis la nécessité d'aller à l'achat de l'appartement, d'aider à l'achat de l'appartement pour trouver à se marier, sont dissuasifs. Les mariages plus tardifs, le refus pour certaines femmes de se marier dans le cadre familial traditionnel largement subi, les impératifs de réussite de carrière sont autant de facteurs qui limitent la propension à faire des enfants. Le cadre en Chine actuellement proposé aux jeunes adultes, aux couples pour faire des enfants, il est tout pourri, hein, pour dire les choses. La perte de foi en l'avenir en est un autre dans une phase de ralentissement de l'économie, de hausse du chômage pour les plus jeunes. L'État chinois a aussi une large part de responsabilité dans la situation durant 36 ans, un petit peu d'histoire, de 1980 à la fin. De 1980 jusqu'à la fin 2015, le pays a interdit à ses couples d'avoir plus d'un enfant, c'est la politique de l'enfant unique. Tardivement, il y a tout juste une décennie, les autorités ont annoncé l'abandon de la politique de l'enfant unique, puis permis en 2021 d'avoir 3 enfants. Donc tu as comme un pays pendant 36 ans qui a interdit aux Chinois d'avoir plus d'un enfant. Voilà. Puis après, ils ont dit, ah ben non, finalement, les autorités ont permis aux Chinois d'avoir jusqu'à 3 enfants, sauf que les Chinois n'ont pas suivi. Sans jamais reconnaître l'effet délétère de ces politiques passées, le gouvernement les a complètement inversées. Donc ils n'ont jamais reconnu officiellement qu'ils ont fait de la merde. Maintenant ils disent qu'il faut faire l'inverse. Voilà. T'as qu'à suivre. T'as qu'à suivre. Congé plus long en cas de mariage tardif, qui existait jusqu'en 2015 pour dissuader de procréer et donner maintenant aux couples qui se marient jeunes pour les convaincre de faire des enfants. Les amendes prohibitives pour naissance hors quota ont laissé place aux abattements fiscaux pour enfants à charge. Avant, on mettait des énormes amendes aux parents qui avaient plus d'un enfant. Maintenant, on leur donne des incitations fiscales pour qu'ils aient des enfants. Les agents du bureau de la santé, l'ancien planning familial, ne vont plus toquer aux portes pour imposer des avortements, mais sensibiliser au bonheur d'avoir un bambin, aux bienfaits pour l'équilibre psychologique, de grandir dans une fratrie, à ceux pour le corps des femmes, d'avoir un bébé tôt. Ils ont aussi, donc il y a des gens qui tapent à votre porte en Chine qui vous disent ah bah c'est bien d'avoir des enfants, tout ça quoi. Ils ont tout aussi un argumentaire pour essayer de faire changer d'avis les femmes qui envisagent un avortement. Allez, allez, tant qu'à faire. La Chine. Les villes ont abandonné la course à qui sera la plus ailée dans l'application de l'enfant unique pour une concurrence à qui saura redresser sa courbe de la natalité. Les officiels locaux, en plus d'autres critères tels que le respect des objectifs de croissance du PIB, sont jugés là-dessus. Et donc la ville de Tiananmen tient le haut du pavé. C'est un enfer, hein. Donc dans la ville, cette ville qui réussit à inverser justement la courbe de la natalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les jeunes mariés peuvent demander l'équivalent de 7 200 euros d'aide à l'achat de leur logement. Les couples qui ont un deuxième enfant peuvent compter sur 100 euros par mois, jusqu'aux trois enfants de l'enfant, et 120 euros mensuels au troisième. Voilà, de la thune, de la thune. Voilà. Des affiches de la Commission municipale de la santé font miroiter des aides qui, cumulées, peuvent atteindre jusqu'à 35 000 euros pour un deuxième enfant, 43 000 pour un troisième. Le gouvernement central fait pareil. La Chine a annoncé en juillet une subvention de 438 euros par enfant par an jusqu'à leurs 3 ans. En août, la levée des frais de scolarité pour la dernière année de maternelle, etc., etc. La thunasse. Voilà, bon, je vous passe, il y a plein de mesures comme ça. C'est fou. Voilà, vous avez deux amis en train de papoter là en Chine. Voilà. Et qui baissent la voix pour raconter que leur belle-mère a été forcée d'avorter à 8 mois d'une grossesse hors quota il y a quelques décennies. Donc ça, c'était la politique de l'enfant unique. Son mari aurait sinon perdu l'emploi de fonctionnaire qui faisait vivre sa famille. Aujourd'hui, la pression est inverse. Bah, à quel moment le pouvoir s'occupe de ça? Ça, c'est un vrai sujet. C'est la question que nous posions tout à l'heure. Allez, je vous lis. J'ai pas suivi le début. La natalité de la Chine est en baisse. Pour qui toutes ces mesures? Elle s'effondre. Le taux de fécondité en Chine s'effondre. Il faudrait 2,1 enfants, c'est les statistiques, hein, donc c'est 2,1 par femme pour assurer le maintien de la population. On est à 1. Voilà. Comme le dit du spam, heureusement que la Chine n'est pas une dictature. Que penses-tu sur le fait que la Chine vient d'interdire aux influenceurs de parler de sujets? De interdiction aux influenceurs de parler de sujets s'ils n'ont pas de diplôme reconnu dans le domaine, dit Blas Drogon. Ah ben heureusement que la Chine n'est pas une dictature, dis donc. Ouais, c'est fou. Je vous lis. Étonnant. Bon, il y a quelques années déjà, le pouvoir central chinois avait essayé de relancer la natalité en prenant des mesures. Et en fait, ça n'avait pas suivi. Ça n'avait pas suivi. Voilà. Quelqu'un me disait, mais comment on a pu avoir, il n'y a pas si longtemps que ça, un taux de fécondité de 2 enfants par femme, alors que normalement, c'était la politique de l'enfant unique? Ah, parce qu'en fait, les Chinois, malgré la rigueur de cette politique, en fait, eh bien, n'ont pas suivi à la lettre cet impératif. Et aujourd'hui, alors que la Chine essaye d'inverser ce phénomène, bah, leurs incitations ne fonctionnent pas tant que ça non plus, quoi. Comme le dit joliment Mothman Hawks, la vie trouve toujours un chemin. Les campagnes étaient beaucoup moins surveillées, me dit Wawares. Oui. Oui, ça dépendait aussi des moyens de la famille. Ma prof de chinois avait plusieurs frères et sœurs parce que leur famille était assez riche, me dit Senkatsila. Intéressant. En fait, c'est le nom qu'on donne ici pour le titre de l'enfant unique, mais c'était pas sur tout le territoire à la campagne. Tu pouvais parfois avoir deux enfants en plus, me dit Jet Set Willy. Et aussi, si tu étais fils, fille unique, tu pouvais avoir deux enfants. Ok. Et comment expliquer, demande-t-il, qu'aujourd'hui, malgré les incitations, les couples chinois ne veulent pas faire d'enfants? Il y a un passage dans l'article qui était assez clair là-dessus. Regarde, je vais te le relire. Voilà. Pour une population devenue majoritairement urbaine, le coût de la vie et d'une bonne éducation, avec les cours du soir qu'elle implique, parce qu'ils sont vachement là-dessus, puis la nécessité d'aider à l'achat de l'appartement pour trouver à se marier, sont dissuasifs. Les mariages plus tardifs, le refus de certaines femmes de se marier dans un cadre familial traditionnel largement subi, et les impératifs de réussite de carrière sont autant de facteurs qui limitent la propension à faire des enfants. La perte de foi en l'avenir en est un autre, dans une phase de ralentissement de l'économie et de hausse du chômage des jeunes. Façon, peu ou prou, de toute façon, tous les pays du monde, à commencer par les plus riches, mais pas seulement, sont confrontés au même sujet. Hein. King Julian Z dit la baisse de la natalité, c'est pas une tendance mondiale. C'est une tendance mondiale, c'est une tendance mondiale, et pas seulement dans les pays riches. C'est pour ça que dans quelques décennies, on va atteindre un pic de population mondiale et après ça va baisser. Pas le temps de faire des enfants si on travaille, dit Jake Soundcloud. Alors faire des enfants, si. Si, ça tu trouves toujours le temps, ça, faut pas déconner. Mais après, il faut s'en occuper correctement. Ouais. C'est ça que tu voulais dire. Parce que faire des enfants. Littéralement, ça peut prendre 5 minutes, hein. Hein? C'est après. Ça prend plus de temps après. Oui, comme dit Étienne, tac tac, voilà. Ou 2 minutes, Nîmes, oui, ou 2 minutes. 10 secondes. 10 secondes. Comment ça, 5 minutes devant tard? 30 secondes perso, mais c'est quoi cette génération-là de... C'est fou ça. 5 minutes belle perf, vous plaisantez ou quoi? Hein, quoi? Ok, d'accord, on va n'allons pas sur ce terrain. Hein? C'est pas un concours, mais on m'appelle le lapin perso. Putain, ok, d'accord. Ok. Il y a énormément de lapins de garenne sur le stream, me dit Comid. 5 minutes, ça fait longtemps que j'ai allumé la clope. Hein? Oh non, la clope après, ça va. Nouvelle génération rapide comme la fibre. Ok. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, verre de vin et douche comprise. Quel enfer. Merci, Florel. 5 minutes, c'est le temps qu'il faut à Sam pour enlever son sweat. Quoi? 5 minutes? C'est le temps qu'il faut à Sam pour enlever son sweat. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Comment ça, MDR? Vous êtes des monstres. Je me casse. Je me casse. J'en peux plus de vos conneries. Les amis, merci pour ce matin, c'était un plaisir en vrai. Merci d'avoir été aussi nombreux. Bon, on n'avait pas les amis de TikTok parce que un petit bug sur la caméra, je vais aller voir tout ça. Mais c'était un bon moment. C'était un bon moment. Merci à vous. Merci à ceux qui vont nous écouter en replay sur Twitch, sur YouTube et en podcast audio. On est reparti. C'est tous les matins. C'est 9h midi. C'est 9h30, 12h30 en direct. Et c'est posté l'après-midi en podcast vers 15-16h. On va faire un petit raid. N'oubliez pas mardi 20h. Regardez comme c'est beau ce petit stream qui arrive là. Nous allons montrer en tant que communauté à Emilien combien ce jeu est formidable. Je parle de Valorant. Un petit stream sympa. Et puis il y a un monde où je lance un peu de solo queue sur mon ancien compte Valo avec mes skins cet après-midi d'ici 1 heure. Voilà, je vais juste envoyer quelques mails de taf là. Ok? Qui est en live là ce matin? Ça se dit sweat? Non, sweat c'est affreux. Sweat. Le sweatshirt c'est affreux. Moi je dis sweat. D'ailleurs, la même suite avec Emilien, là. C'est affreux, souhaite. On devrait dire souhaite, mais personne dit souhaite. C'est affreux. Qui est en live? Allez. Ok. Ouais, il est là, l'ami. Il est là, l'ami. Oui, moi, il est là, l'ami. Ah, il y a ça aussi. Ouais, c'est un nom, ça, oui. Oui. Oh, c'est mignon, ça. C'est qui? Parce que je suis plein de gens, mais je regarde. Ok, je regarde plein de gens. Je regarde. Bon, écoutez, j'avais une première envie. Je vais rester sur mon avis. Voilà. Je le raide pas mal en ce moment. Mais il est tellement gentil. Voilà. J'ai passé tellement bon moment avec lui. Ah, il y a Skyrose aussi? Ah, bah c'est un peu le même ordre. Il est en live, Skyrose? Pourquoi je le vois pas? Notre ami qui. Ah, bah attends, mais je le follow pas? Bah si, pourtant. Écoutez, j'allais raid Show H1, avec qui je passe de super moments en ce moment sur Battlefield et sur Warzone. Mais il y a Skyrose avec qui j'ai streamé il n'y a pas longtemps, grâce à Show H1, récemment sur Battlefield, et que j'ai trouvé super sympa. Et qu'on a échangé avec lui. Et qui est super cool. Et qui est en train de discuter, mais qui est sur le point de lancer un live Battlefield Red Sec, donc le mode Battlefield le mode Battle Royale de Battlefield. Et ben on va aller le voir. Let's go. Skyrose. Trop gentil. Sky. Et on fait ça. Et je vous retrouve d'ici 1 heure, je pense. Le temps de manger et puis de travailler. Prenez soin de vous. Merci pour ce matin. Et je vous dis à dans 1 heure. Ciao, ciao les beaux gosses. Pause. Fin. Oh, je mets bien le titre au milieu, c'est plus joli. Merci Edrad. Merci pour ton soutien. Là, c'est plus joli là. À tout à l'heure les chouchous.